Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous mettons l'état, lui, cher fils, lui, cher son, tous les deux. On va faire le cours en roumain ce soir pour changer. C'est pas l'idée, mais le romanège, tu as peint tous ces fâches de schimbare. Non, c'est chez nous, peut-être.
Pour moi, c'est difficile.
Moi, pentru a face o surprinsă la studenților. La studenți. Bien, oui, enfin non, on va en fait, modestement garder la langue française qui est utile pour tout le monde. Alors donc c'est un cours de liturgie, donc c'est toujours le contexte de la liturgie comparée, je le dis pour les étudiants qui n'ont peut-être pas pu tout suivre, qui rattrapent le train en route. Donc cette année en liturgie, enfin ce semestre aussi plutôt en liturgie, j'ai la première heure, je traite d'un sujet qui est lié à la liturgie comparée, et en deuxième heure, je traite du typikon de notre Église. Voilà, alors la liturgie comparée, j'ai déjà expliqué, je le redis rapidement pour ceux qui prennent le train en marche. Donc il s'agit en fait de comparer les différentes formes liturgiques chrétiennes, pas forcément actuellement, mais surtout dans leur évolution, parce qu'on s'aperçoit, d'après les cours précédents, on s'aperçoit qu'il y a dû avoir quand même un noyau liturgique central, qui était la liturgie de l'Église de Jérusalem. J'ai expliqué pourquoi, mais je le redis, parce que c'est important. En fait, il y a un rapport étroit entre la liturgie et l'Église, ce que vous savez parfaitement, mais j'insiste là-dessus. Donc, dès qu'il y a une Église locale quelque part, une Église souveraine, eh bien, généralement, elle a une pratique liturgique autonome et à elle. Et comme la première église chrétienne du monde, c'est l'église de Jérusalem, c'est là où il y a le premier évêque de l'histoire chrétienne, l'évêque Jacques de Jérusalem, donc il y a eu aussi une vie liturgique propre à cette cité, là, parce que c'est la cité où étaient les chrétiens, tout simplement. Et après ça, donc dans les autres cités de l'Empire, des liturgies se sont développées, quelquefois avec des différences intéressantes, mais quand même toujours à partir d'une sorte de matrice initiale. L'église mère du christianisme, c'est l'église de Jérusalem. Il n'y a pas d'autre, même si après ça, d'autres églises ont revendiqué ou continuent à revendiquer cet honneur, en fait, c'est inexact. L'église mère de toutes les églises, c'est l'église de Jérusalem. Donc, alors justement à ce sujet-là, ce soir, j'ai choisi, dans le cadre donc de la liturgie comparée, de présenter ce... Enfin, peut-être j'aurai le temps de faire deux choses, mais enfin, en tout cas, un des deux documents auxquels j'ai fait allusion dans les cours précédents, à un livre qui s'appelle « Le journal d'Etheri ». Et j'ai fait allusion également à un ouvrage qui s'appelle « Les constitutions apostoliques ». Je ne pense pas que j'ai le temps de présenter les deux ce soir, donc mais en tout cas, j'ai le temps ce soir, en une heure, de parler du journal d'Etheri. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc d'une personne d'origine gauloise, on va dire au sens large, parce que les gens disent qu'elle était de l'Aquitaine, d'autres de la région de Narbonne, d'autres du nord de l'Espagne. Enfin bon, globalement, c'est une personne de région plutôt gallo-romaine au sens très large, qui s'est exprimée en langue latine parce que c'était la langue qui lui était facile, et c'est une personne assez cultivée d'après ce qu'on voit. Donc la langue latine lui était familière, les personnes cultivées dans la société gallo-romaine maîtrisaient la langue latine très bien, et donc écrivaient couramment dans cette langue-là. C'est une langue normale, disons, parce qu'on est au 4e siècle. Non, mais je vous ai dit ça déjà, que jusqu'au 3e siècle, c'est-à-dire un siècle moins, jusqu'au 3e siècle, c'est le grec qui a été la langue de l'Empire romain. Voilà. Mais donc, progressivement, il y a le latin a supplanté, surtout dans les parties occidentales de l'Empire. Alors, cette dame, donc, qui s'appelle, alors, il faut vérifier son nom parce que. Elle a été longtemps connue sous le nom de Etheri. Etheri s'écrit E-T-H-E-R-I-E. Et en fait, les savants, parce qu'il y a toujours les savants pour vous montrer que vous n'avez pas la vérité en totalité. Et donc, les savants, depuis quelques années, ont fait des recherches et ont démontré par A plus B que ce n'est pas Éthérie qu'il faut l'appeler, mais Égérie. Égérie, ce qui est plus probable d'ailleurs, parce que vous savez certainement que Égérie était le nom d'une nymphe. Alors les nymphes, c'était donc des divinités qui avaient cours dans le monde païen, chez les Romains en particulier, et donc les nymphes étaient des divinités qui hantaient les bois, comme des fées, des espèces de fées, des êtres absolument charmants et très aimables, et certaines de ces nymphes étaient censées avoir une certaine sagesse et pouvoir conseiller les souverains. Et donc il y a eu à Rome, à l'époque des rois, donc avant l'Empire, l'époque très ancienne de rois, il y avait un roi qui consultait une nymphe, il allait dans les bois comme ça, et revenait avec des conseils inspirés, et la nymphe qu'il allait consulter, si je ne me trompe pas, je peux me tromper, mais il me semble bien que la nymphe qu'il allait consulter s'appelait justement Égérie. Donc Égérie est le nom d'une nymphe, c'est un nom typiquement romain, typiquement appartenant à la culture, mais ce n'est pas un nom de sainte. Évidemment, c'est pour une personne qui était très très chrétienne, comme moi je vais le redire, en fait elle portait un nom païen. Mais ça c'est beaucoup fait dans l'Antiquité. Vous savez, les Grecs donnaient à leur nom d'enfant. Moi-même j'étais récemment à Chypre, et bien à Chypre, toutes les petites filles s'appellent Clytemnestre, elles s'appellent Pénélope, Perséphone, les gamins s'appellent Ulysse. Donc le fait que dans le milieu chrétien on donne des noms païens, ce n'est pas quelque chose de tout à fait extraordinaire. Bon, toujours est-il que cette dame a fait un pèlerinage à Jérusalem, non pas avec le diacre Bogdan et le service des pèlerinages de la métropole, mais par ses propres moyens. Par ses propres moyens, parce qu'elle avait probablement de l'argent, mais on voyageait beaucoup à l'époque, hein. Mais surtout les gens qui avaient peut-être les moyens de voyager. Et donc elle a fait ce voyage, d'après ce que j'ai vu, elle a voyagé dans les années 393, entre 393 et 395. C'était un voyage qui a duré un certain temps, alors qu'elle est restée là-bas, et après ça, elle a pris la décision d'écrire cet ouvrage et ses souvenirs, et c'est extrêmement intéressant. C'est un document, vous pouvez imaginer, c'est un document extraordinaire. Au IVe siècle de notre ère, une personne assez cultivée décrive ce qu'elle a vu à Jérusalem. Alors bien sûr, la première partie de l'ouvrage, qui s'appelle donc « Journal de voyage », la première partie est une description des lieux saints. Alors ça, c'est tout à fait le pèlerinage type. On a une description de Jéricho, une description de différents sites bibliques. C'est vraiment très intéressant. Et c'est un rapport avec la Bible, bien entendu. C'est pas exactement ce que nous faisons actuellement quand nous partons en voyage avec les voyages de la métropole, nous faisons ça, nous allons de lieu en lieu et nous retrouvons les lieux bibliques. Donc elle a fait ça, mais elle le décrit. Mais, donc c'est pas de ça dont je vais vous parler maintenant, mais la deuxième partie de l'ouvrage, qui est en fait les observations qu'elle a faites dans le domaine liturgique. Et ça nous intéresse, ça intéresse notre cours de liturgie comparée, puisque avec ce qu'elle dit de la liturgie, ça permet d'avoir un peu une idée, un point de repère par rapport à notre propre pratique liturgique. Et donc c'est vraiment intéressant. Et alors elle, du coup, elle dit tout le temps dans son texte, ah ben Jérusalem, ils font comme chez nous, ou ils font pas comme chez nous. Mais comme on ne sait pas comment ils font chez elle, on est bien avancé. Donc c'est chaque fois qu'elle dit qu'à Jérusalem on fait comme chez elle, ben on n'apprend rien, parce qu'elle écrit à quelqu'un de son propre pays. Mais quand elle insiste sur les différences, alors là, on apprend un petit peu quelque chose. Alors, je vais vous lire certains passages qui je pense, vont vous intéresser. Et il y a, en fait, si vous voulez, ses observations dans le domaine liturgique portent principalement sur le temps pascal. Alors, elle commence par décrire les offices quotidiens, les offices les plus courants, je vais revenir là-dessus. Et après ça, elle parle du carême, et des offices propres au temps du carême, et puis on arrive à, je vais en parler aujourd'hui parce qu'on est en plein dedans, elle parle de la liturgie de Lazare, qu'on va voir nous ça après-demain, c'est pour ça comme j'aime bien parler dans le contexte, Et elle parle de la liturgie des rameaux, elle parle de la Semaine Sainte, c'est vraiment très intéressant. Ce n'est pas toujours très clair. J'avoue que je lis ça, c'est un peu confus quelquefois ce qu'elle dit. Mais enfin, tout de même, on apprend des éléments intéressants et qui sont assez différents quand même de notre pratique actuelle. J'ai la première, ce qui moi me saute aux yeux, d'abord je vous renvoie à cette lecture, parce que vous aurez peut-être la possibilité de lire vous-même ce texte, que moi je ne fais qu'une introduction, mais je vous y renvoie. Vous pouvez trouver ce texte, je l'ai mis, oui, c'est aux sources chrétiennes numéro 296. Et ça a été réédité en 2002. Il faut savoir que ça a été édité plusieurs fois. Et je me demande même s'il n'y a pas une édition en livre de poche. Moi, j'ai été sur Internet, il faut aller sur Amazon, par exemple, voir ce qu'ils ont. Et bon, à la fois, ils disent le livre n'est pas disponible. C'est un petit peu décourageant. Mais il semble qu'il y ait une édition courante. Donc ça, vous pouvez le trouver, et vous allez trouver le nom de Égérie, effectivement, et pas Éthérie, hein, parce que c'est la dénomination acceptée maintenant, et l'édition que vous allez trouver comporte le récit de voyage fait par donc Égérie, et après ça, un texte qui est écrit sur elle, que je n'ai à peine regardé, ça parle d'être extrêmement intéressant, c'est un texte qui est écrit à la louange de la bienheureuse Éthérie, adressé par Valérius à ses frères, les moines du Vierzo. Voilà, bon. Donc, c'est pas inintéressant, si vous voulez, mais enfin, bon, je n'ai pas eu. C'est pas de ça dont je vais parler véritablement. Je regarde s'il y avait quelque chose d'intéressant, pardon, quand même. Qu'elle disait. Oui, il parle de la sainte. En disant, elle ne se contenta pas de parcourir presque toutes les contrées du monde, elle lui soit encore de faire aussi l'ascension des sommets d'autres montagnes gigantesques, la haute montagne du Nebo, souvent dite semblable au Sinaï, du haut de laquelle le bienheureux Moïse vit la terre promise, puis la hauteur de Pharan, puis encore la cime de l'énorme montagne du Tabor, puis une autre semblable et fort élevée nommée l'Hermon, sur laquelle le Seigneur avait coutume de se reposer, puis une autre, bon, donc il reprend un petit peu ça, ce n'est pas normalement intéressant. Alors, donc, vous lirez ça, et moi, je peux dire, moi, ce qui me frappe principalement dans sa description des offices, c'est premièrement le fait que, par rapport à nous, elle parle très peu de la liturgie eucharistique. Hein. Il semble que la liturgie eucharistique doit avoir une forme assez simple et... pas répétitive, si vous voulez, mais assez sobre. Quand elle en parle, elle dit, voilà, l'évêque fait l'offrande, il offre les sacrifices, et puis c'est tout, elle n'en parle pas plus. En revanche, elle parle beaucoup, beaucoup de tous les offices qu'il y a autour. Imaginez que ça ressemble un peu quand même à ce que nous avons dans l'Église orthodoxe. Actuellement, nous avons la liturgie eucharistique de Saint Basile ou de Saint Jean Chrysostome, et puis nous avons autour, si je peux dire, quantité d'offices, des matines, des vêpres, tout ce qu'on a étudié dans les cours précédents, enfin, à proximité. Mais ce que nous avons, nous, est très petit par rapport à ce qu'ils avaient, eux. Le premier détail qui saute aux yeux dans le comportement liturgique que décrit Éthérie, c'est-à-dire le comportement liturgique qu'elle a observé à Jérusalem, c'est important, c'est dans ce contexte-là, la première caractéristique, c'est que ce sont des offices de vigile tout le temps. Tout le temps que les fidèles passent un temps extraordinaire à l'église, quantitativement, des heures et des heures, ils vont juste rentrer chez eux, manger un petit morceau, et ils retournent vite à l'église, donc il y a une présence liturgique des fidèles qui est considérable. Alors, c'est peut-être lié au fait qu'il y a des pèlerins. Alors les pèlerins, bon, mais ils n'ont pas besoin d'aller au bureau ou sur les chantiers, ils sont là pour ça. Mais quand même, c'est impressionnant, on a l'impression que les fidèles dans la communauté des chrétiens de Jérusalem au IVe siècle passaient un temps considérable à l'église autour de l'évêque, avec bon, les diacres, les prêtres, etc., tout un monde, et que le temps qu'ils passaient à l'église était essentiellement consacré à des offices de... Elle appelle ça des vigiles. Alors, c'est des offices de veille qui correspondent un petit peu à notre office de matine, mais des matines très, très, très développées, très complexes. Et les autres offices, les offices de vêpres, sont aussi très développés, très complexes, avec beaucoup de lectures. Nous, quand nous avons au vêpres, par exemple, actuellement, nous avons 3 lectures. Et encore, nous avons 3 lectures. Quand c'est une fête, nous ne les avons pas tous les samedis et tous les jours. Bon. Et là, c'est des lectures tout le temps. C'est-à-dire que ça, c'est quand même la caractéristique de la vie liturgique dans ce milieu de Jérusalem. C'est, si vous voulez, on va dire, l'immersion dans la parole de Dieu. C'est vraiment la grande caractéristique. C'est beaucoup plus fort que notre pratique à nous. Notre pratique à nous, il y a beaucoup de compositions patristiques, qui sont d'ailleurs quelquefois postérieures au IVe siècle. Les fameux canons. Les canons de Romain le Mélode, si vous voulez, c'est après, vous voyez. Même les canons de Fernand Damasène, c'est après. Donc au IVe siècle, c'est intéressant. La première la remarque que je veux faire ici, c'est qu'au IVe siècle, la pratique liturgique est essentiellement une pratique de vigile, c'est-à-dire on écoute pendant beaucoup de temps des textes bibliques et on se prépare à l'Eucharistie, on se prépare à la célébration, mais on consacre beaucoup de temps et ce temps qu'on passe à l'Église est un temps dans lequel on est immergé dans la parole de Dieu. Et c'est, moi, je trouve ça très intéressant. Ça nous renseigne en fait sur le sens du baptême. Vous savez que baptême, en grec, baptizine, ça veut dire immerger, scufundere, vous avez en roumain, je crois. Et, scufundere ou baptiser, c'est immerger. Baptiser, en français, ça ne veut rien dire du tout. Mais immerger, ça veut dire quelque chose. C'est que tu es plongé dans l'eau ou dans quelque chose, et par le baptême, tu es principalement immergé dans la vie de l'Église, on est d'accord là-dessus, mais immergé dans la parole. Dans la parole. Et ça, il faut comprendre ça. C'est pour ça que on dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est-à-dire vous tous qui avez été immergés. Et c'est dommage qu'en roumain, on a c'est dommage qu'on ait ce mot-là, parce qu'on aurait kus as scufundat, ce serait beaucoup plus intéressant. Parce que ça veut dire que vous tous qui avez été immergés, plongés dans le Christ, mais qui est le Christ? Le Christ, c'est la parole, justement. Le Christ, il est le résumé de l'Écriture. Il est là, en tant que verbe du Père, l'hypostase même du verbe. Donc, être plongé dans le Christ, ça revient en fait à être plongé dans la parole. On comprend très bien ça. Très bien ça. Et que, de même, la communion eucharistique, ça consiste à consommer, à manger, à boire la parole. Donc, être chrétien, à ce degré-là, c'est être plongé dans la parole, mais la parole sous toutes ses formes, toutes les formes de l'Écriture, principalement les psaumes et les lectures bibliques et les lectures du Saint-Évangile, évidemment. Mais ce n'est pas du tout être plongé dans les écrits patristiques. La caractéristique de cette liturgie du IVe siècle, c'est qu'elle est scripturaire, voilà. Principalement scripturaire, et elle nous renseigne sur le sens réel du mot baptiser, être immergé dans la parole, être immergé dans l'écriture. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est évidemment une caractéristique importante. Il y a une deuxième caractéristique, avant de vous lire le texte lui-même, qu'il faut quand même signaler, c'est l'importance des moines. Moi, en retravaillant ce texte pour le présenter ce soir, j'étais un peu étonné, j'avais oublié ça. J'avais complètement oublié qu'au IVe siècle, la vie monastique était tellement importante à Jérusalem. Mais là, c'est au point que les offices liturgiques qui sont décrits à Jérusalem, c'est-à-dire dans les principaux lieux de culte qui sont à Jérusalem, si vous connaissez un petit peu, donc l'Anastasie, etc., les différents lieux de culte et les lieux les lieux forts, par exemple, il y a un moment, elle dit, on va à Béthanie, ça s'appelle le Lazarum, on va à Béthanie, on va dans tous les lieux, on va parce qu'ils vont célébrer aussi sur les lieux où le Christ a vécu, si vous voulez, c'est ce qu'on fait forcément. Et donc, dans tous ces lieux, voilà ce qui est la liturgie, les offices de vigile sont assurés principalement par les moines. Elle parle beaucoup de ça, les moines. Alors, en grec, c'est intéressant parce qu'elle ne dit pas monakos, elle dit monazondes. Et les moines et les vierges. Bon, donc c'est les moniales. Et puis, de temps en temps, il y a le mot laïkos, hein, laïcs, et qui désigne les chrétiens, ben, comme vous et moi, qui par opposition, mais par distinction, par différence avec les moines. Mais donc, on est ici dans une communauté liturgique, d'importance ça quand même, vous voyez, une communauté liturgique qui est composée principalement de moines et de moniales, qui sont actifs, qui sont présents, qui assument les offices en grande partie. C'est pas très précis, mais c'est d'après ce que je comprends. Et puis, parmi ces officiants, il y a également l'évêque, dont on parle beaucoup. Ça, l'évêque, c'est vraiment le comme on a, nous, dans l'Église orthodoxe, c'est vraiment le célébrant par excellence. La liturgie, il faut quand même le noter, dans ce contexte-là, ce que décrit Thierry, c'est une liturgie, ce sont des offices principalement pontificaux. Et ça, c'est donc là aussi la caractéristique de la liturgie au IVe siècle, c'est que la présence de l'évêque est normale. On l'attend, on va le chercher, on le raccompagne. Il est l'officiant principal. Alors il y a donc l'évêque, non pas les évêques, mais l'évêque. Ce qui est très intéressant aussi du point de vue de l'ecclésiologie, parce que je crois qu'on avait parlé de ça une fois précédente, que dans chaque ville il y a un évêque, il n'y en a pas plusieurs. C'est le principe de territorialité dans l'Église ancienne. Donc il y a l'évêque au singulier, et en revanche il y a les prêtres et les diacres. Alors les diacres, on en parle tout le temps, ils n'arrêtent pas les diacres. Et il y a un moment une chose très drôle, il dit tout le monde est assis sauf les diacres. Enfin, les diacres sont toujours debout. C'est la caractéristique des diaconats. C'est parce qu'ils sont debout, parce qu'ils sont là à dire aux gens faites ceci, faites cela. Il leur donne des indications, ils sont très très actifs. Donc l'élément actif dans la communauté, c'est vraiment l'élément diaconal. Et les prêtres agissent autour de l'évêque, c'est vraiment le presbytérium qui liturgiquement est dans dans l'obéissance à l'évêque. Donc on a vraiment une vision de la communauté liturgique au IVe siècle. Donc l'évêque, le presbytérium, donc les prêtres, on ne dit jamais le prêtre, on dit les prêtres, et les diacres aussi, la communauté des diacres. Après ça, donc, ces moines et ces moniales qui sont très importants, et puis des fidèles qu'on appelle laïcs. Le terme de laïc désignant, donc ça veut dire que le mot est déjà déformé à l'époque. Vous savez que le mot, au sens étymologique de laïcos, c'est membre du peuple de Dieu. Donc, si on prend vraiment le mot laïc à son origine, tout le monde est laïc, y compris l'évêque, les prêtres, les diacres et les moines. Ils sont tous des laïcs, puisqu'on est tous membres du peuple de Dieu. Mais on s'aperçoit que dans la rédaction ici, donc au IVe siècle, quand Égérie écrit, elle emploie déjà le mot laïc pour désigner des chrétiens qui vivent dans le monde. Et donc ça veut dire que la déformation du mot et la déformation ecclésiologique qu'elle suppose, je pense qu'il y a quand même une déformation très ancienne. Ça fait donc longtemps qu'on considère qu'il y a dans l'Église des spécialistes de la liturgie et des personnes qui sont, pas des consommateurs si vous voulez, mais qui sont occupés à autre chose et qui donnent à l'Église le temps qu'ils peuvent. Enfin, c'est probablement lié au fait que le laïc est celui qui exerce une profession civile. C'est ça qui fait que, il a une famille, et il exerce une profession civile. C'est ça qui fait la différence, parce que du coup, au point de vue de la disponibilité, il est moins disponible que les moines et les moniales, bien entendu, ceci. Bon, alors vous voyez comment ça se présente. Alors donc, il dit par exemple, tous les jours, avant le chant du coq, on ouvre toutes les portes de l'Anastasis. Alors l'Anastasis, donc c'est cette, je vous lis la note, c'est une grosse église construite sur la grotte même du Saint-Sépulcre. Donc c'est ce qu'on a encore maintenant, quand vous allez à Jérusalem, vous avez encore ce bâtiment, mais enfin il est maintenant, c'est compliqué avec d'autres constructions par-dessus. Point de vue architecture, c'est incompréhensible. C'est très très beau, moi je suis profondément ému par cet ensemble, c'est magnifique. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe? Avant le chant des coqs, on ouvre toutes les portes de l'Anastasie et tous descendent, alors tous, les moines, les moniales, et non seulement eux, mais en outre, des laïcs, hommes et femmes, ceux du moins qui veulent faire cette vigile matinale. Alors le « ceux du moins », ça veut dire qu'il s'agit de laïcs, mais un petit peu plus motivés que les autres, ceux qui veulent c'est pas très gentil de dire ça, serait peut-être plus gentil de dire ceux qui peuvent amoindrir ceux qui veulent. Bon, mais ça veut dire qu'il y a quand même dans cette assemblée liturgique des personnes particulièrement motivées, particulièrement conscientes. Donc il doit y avoir aussi une masse de chrétiens qu'on voit moins hein, quand même. Hein. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe depuis 7 heures? Cette heure-là, c'est avant le chant du coq, c'est-à-dire alors qu'il fait nuit. C'est très bien que tout le monde a eu des coqs ce soir. Ça fait que le coq a comme caractéristique de nous déranger le matin puisqu'il chante avant le lever du jour. C'est pour ça que le Christ a dit à l'apôtre Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras trahi trois fois, c'est-à-dire très tôt dans la nuit. Que déjà le coq il chante avant le lever du jour, mais si c'est avant le chant du coq, ça veut dire que bah, entre 3h du matin, 2h du matin. Maintenant, c'est vrai que c'est très intéressant cette question de la place des oiseaux dans le lever du jour. Quand nous rentrons après avoir célébré Pâques, généralement on rentre à la maison vers 4h du matin, 5h du matin, parce qu'on raccompagne des gens en voiture, etc. Et moi, à 5h du matin, je sors mon chien. Eh bien, 5h du matin, il fait, donc le dimanche de Pâques, à 5h du matin, il fait pas jour, moi à peine, et il y a des oiseaux qui chantent partout. Voilà. Voilà, donc, depuis 7h jusqu'à ce qu'il fasse jour, on dit des hymnes, on répond aux psaumes, et on alterne également des antiennes. Alors ça, c'est important, parce que ça correspond à ce que je vous ai dit les autres fois, le fait qu'un élément caractéristique du culte chrétien, c'est le chant antiphoné, c'est-à-dire le chant alterné, ou on dit encore le chant responsorial. C'est-à-dire que le chant dans la liturgie chrétienne n'est pas, univoque, si je peux dire, il est fait d'écoute et de prononciation. C'est ce qu'on a ici dans la liturgie, j'ai expliqué déjà plusieurs fois, mais j'y reviens, ce qu'on appelle le « répond », par exemple. Domnesie este Domnul și s-a împărat palatul. Le Seigneur est Dieu, il est apparu. S-a arătat. Domnesie este Domnul și s-a arătat nouă. Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu. Et ça, c'est ce qu'on a au début, c'est repris. Ça, c'est un répond. C'est tout à fait typique du chant responsorial chez les chrétiens. Bon, eh bien, ce chant responsorial, il est très ancien. Et les chrétiens, donc au IVe siècle, ils avaient une pratique. Ce n'est pas très précis ce qu'elle dit, mais elle parle quand même d'antienne. Alors il y a une note qui dit le mot ici. Alors je vous lis quand même la note qui est intéressante. La note 6 dit que le mot antiphona ne correspond peut-être pas exactement au sens moderne de antienne. Il semble bien que nous ayons ici une allusion aux deux modes les plus usités anciennement de la récitation du chant des psaumes, la psalmodie responsoriale et la psalmodie antiphonique. Dans les deux cas, il y avait alternance, pour le premier entre le lecteur et le chœur. Hein, la psalmodie responsoriale, c'est le dialogue, si vous voulez, entre un chantre et le chœur. Par exemple, justement, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le Seigneur est Dieu, il nous est apparu. Et la psalmodie antiphonée, c'est-à-dire l'alternance entre deux chœurs. De cœur. Cette psalmodie alternée comportait le plus souvent l'introduction entre les versets des psaumes de refrains, courtes formules de louanges ou d'invocations, parfois tirées du même psaume, parfois étrangères au psaume, et que peut désigner aussi le mot antiphona. Donc, je suis content de parler de ça, parce que pour ceux qui ont suivi les cours précédents, j'ai beaucoup parlé de ça, du chant antiphoné, du chant responsorial, à propos de l'enseignement de Maxime Kovalevski. Et je n'étais pas précisé ça, qu'il y a une différence entre le chant responsorial et le chant antiphoné. Antiphoné, ce sont deux chœurs qui se répondent. Responsorial, c'est un chant qui dialogue avec le chœur. On peut dire que même la liturgie, je vous avais dit ça, je crois, dans les cours précédents, dans la liturgie ancienne, en fait, le dialogue se faisait principalement entre celui qui présidait, c'est l'évêque, et le peuple. Et puis progressivement, on a introduit d'autres formes responsoriales. Mais la base, quand l'évêque dit « paix à tous » et que tout le monde répond « jikudu rulteu » à ton esprit, c'est ça, c'est le chant responsorial, typiquement. Toute la liturgie est faite comme ça, du dialogue. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? À chaque hymne, on fait une prière. Alors ça, malheureusement, on ne sait pas elle ne dit pas quel est le contenu de ses prières, mais c'est important ça. Le mot prière ici désigne probablement, d'après ce que je comprends, mais je peux me tromper aussi, ceci est très, très imprécis souvent, hein. Mais d'après ce que je comprends, une prière c'est une improvisation. C'est-à-dire que on, elle ne dit pas l'évêque ou rien du tout, vous voyez. Mais si, après ça, elle précise. Mais là, elle dit de manière générale. On fait une prière. Qu'est-ce que c'est qu'une prière? Une prière, c'est une invocation ou une louange adressée à Dieu, mais dont le texte n'est pas forcément écrit. Et j'avais parlé ça dans un cours précédent. On dit que ces prières improvisées caractérisaient toutes les églises. On improvisait, et quand c'était vraiment très réussi, on enregistrait sur un magnétophone, je ne sais pas quoi, et on le notait. C'est comme ça qu'on a les prières de Saint-Basile, par exemple. Donc il y a quand même, quand on dit la liturgie selon Saint-Basile ou de Saint-Basile, c'est quand même assez vrai. Une bonne partie des prières qui sont dans cette liturgie ont dû être improvisées par Saint-Basile. C'est à peu près la même époque. Hein. Dans un autre contexte, le contexte... Oui, Cappadocien, si vous voulez, mais c'était les mêmes pratiques. Donc on lisait des psaumes, on lisait des hymnes, et puis on improvisait, on priait. Et alors, bon, maintenant, on va prier. Bon. Et ça veut dire que les hymnes et les psaumes ne sont pas considérés comme des prières. En grec, là, c'est un texte latin, mais c'est vrai, evchi, en grec, c'est vrai qu'evchi, c'est une prière improvisée ou composée par une personne, mais ce n'est pas un texte biblique. Donc, c'est un problème de terminologie. Est-ce que pour vous, pour nous, pour moi, est-ce qu'un psaume est une prière? Bah oui, moi j'avais tendance à dire que oui, mais en fait, dans le contexte là, non. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Deux ou trois prêtres, et de même des diacres, viennent chaque jour à leur tour avec les moines, vous voyez, parce que ce sont les moines qui sont l'élément fort, et ce sont eux qui, à chaque hymne et à chaque antienne, disent des prières. Donc là, il y a une répartition quand même dans l'office. Les prêtres et les diacres ont comme responsabilité de dire les prières après les textes bibliques. Puis, dès qu'il commence à faire jour, parce que vous voyez que ça dure, hein, on était avant le jour arrive, on continue, alors on entonne les hymnes matutinales. Alors, qu'est-ce que c'est que les hymnes matutinales? J'ai regardé, ils le disent ici en note d'ailleurs, ce sont les laudes. Hein, que nous avons, nous, à la fin de l'office de matine, juste avant la grande doxologie. C'est très... Et qui existe partout. Hein, ces psaumes des laudes, c'est normal d'ailleurs, surtout dans tous les offices chrétiens, aussi bien byzantins comme nous, que les offices latins, les offices maronites, tout ce que vous voulez. Dans tous les offices du matin, les offices de vigile, il y a ces psaumes-là. C'est à peu près normal d'ailleurs, hein. Mais c'est intéressant aussi, parce que dans la pratique, je crois que je vous avais parlé de ça, je ne sais plus, dans la pratique de certains monastères, on lit le psautier en entier, dans la nuit. Et on calcule de façon à arriver à lire les psaumes laudiques, les laudes, au lever du jour. Et ça correspond avec le moment où les oiseaux, la nature entière s'éveillent et les oiseaux se mettent à chanter. Donc c'est très très beau ça, il y a une... cohérence, une coïncidence entre la prière liturgique, la psalmodie principalement, et le cosmos. Et Dieu, vous avez peut-être fait l'expérience d'une agrypnie, moi j'ai fait ça souvent, l'agrypnie, on commence à 7h du soir avec le vide de vêpres, qu'on dit complètement, après ça les grands complis, après les grands complis, l'office de minuit, après l'office de minuit, l'office royal, après ça l'office royal, l'office des matines en entier, avec lecture du synaxaire, lecture d'un acatiste à la sixième mode du canon, bon, ça nous conduit, et après ça la divinisurgie, ça va arriver au début du jour, et les psaumes laudiques généralement se trouvent au bon endroit. Alors ça dépend des saisons, vous allez me dire. Si on fait ça au mois de décembre, évidemment, il faudra commencer plus tard pour rattraper les oiseaux. Mais donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Dans le journal des Théries, les remarques concernant le temps sont très 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 nombreuses, c'est tout le temps. C'est archi, archi fréquent. Il y a qu'en fait, il y a dans ce qu'elle décrit un phénomène de sanctification du temps. Donc j'ai parlé aussi dans d'autres cours, mais je suis content de pouvoir montrer que ça existe. On sanctifie le temps en collant. On colle aux heures du jour, on fait coller les textes bibliques à peu près donc aux heures du jour. Et une autre façon de sanctifier le temps, ça je vais peut-être en reparler tout à l'heure en parlant de la liturgie de Lazare, on sanctifie le temps en, comment dire, en célébrant en temps réel. Et c'est ce que nous avons encore maintenant, par exemple. Toute cette semaine dans laquelle nous sommes dans la semaine de Lazare. Mais si vous avez assisté à l'office de matine, on dit aujourd'hui le Christ est à tel endroit, aujourd'hui le Christ arrive à Béthanie, aujourd'hui, bon, c'est-à-dire que on considère que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de cette semaine-là, ce sont des vrais jours, des vraies journées qui reproduisent ou qui actualisent exactement la chronologie des faits. Et la semaine prochaine, à partir de, ça continue avec la semaine de Lazare, les rameaux, c'est vraiment le lendemain, et après ça, tous les jours de la semaine, jusqu'à Pâques, c'est du temps réel. Alors ça, c'est la grande différence, ça m'intéresse beaucoup, ça. C'est la grande différence entre cette partie, la partie, le noyau liturgique, si vous voulez, le noyau pascal de la liturgie, qui est vraiment... qui colle vraiment au temps réel, et le cycle général de l'année qui est beaucoup plus souple et où on n'a pas du tout ça. On a pas du, après, à partir de la Pentecôte, à partir du dimanche de Pentecôte, il n'y a plus du tout cette, synchronisation jour pour jour. Vous voyez, c'est un autre programme, un programme plus général où on développe les charismes du Saint-Esprit dans les lectionnaires. Mais pratiquement jusqu'à la Pentecôte, les 40 jours qui est entre la résurrection et l'ascension, au moins, collent encore de très près au quotidien. C'est vraiment intéressant. Alors elle, évidemment, elle parle du quotidien revécu, mais en plus, c'est le quotidien revécu sur les lieux mêmes. Donc c'est une façon de coller à la réalité historique est impressionnante. Donc vous noterez ça parce que c'est quand même important. Et alors, donc, dès qu'il commence à faire jour, alors on entonne les hymnes matutinales, c'est-à-dire les laudes. Et voilà qu'arrive l'évêque avec le clergé. Aussitôt il entre dans la grotte et derrière les cancels. Les cancels sont des espèces de... C'est pas une iconostase, c'est une espèce de petite barrière. Ce sont des ça a donné le mot chancel en français d'ailleurs. C'est des petites constructions en pierre qui protègent en quelque sorte le centre de l'édifice. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il entre dans la grotte et il dit d'abord une prière pour tout le peuple. Il rappelle ensuite lui-même les noms de ceux dont il veut faire mémoire, puis il bénit les catéchumènes. Il dit encore une prière et bénit les fidèles. Après quoi, l'évêque sort de derrière les cancels, tous s'approchent pour lui baiser la main, lui les bénit un à un en sortant et le renvoie à lieu, il fait jour alors. Donc tout est, vous voyez, cet office du matin en fait, il est complètement organisé en fonction du lever du soleil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une partie pendant laquelle l'évêque n'est pas là. Nous avons conservé encore dans la liturgie que nous avons, qui est très intéressante, notre liturgie, c'est pas que ce soit la meilleure, c'est pas ce que je veux dire, mais elle est très intéressante parce qu'elle a conservé des éléments anciens, et en particulier l'entrée de l'évêque. Vous avez vu ça, on sait la liturgie pontificale, l'évêque reste tranquille au milieu, et à un moment, les prêtres qui sont à l'autel, ils sortent, ils vont le chercher, et on entre avec lui. Bon, ça, c'est ce qu'on avait déjà à l'époque, vous voyez. Mais autrefois, l'évêque, il était dehors, et on allait, ils sortaient tous dehors, ils allaient chercher l'évêque sur la rue, dans la voiture, il les prenait là, et il entrait avec lui. Mais c'est resté, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très important, ça, je vous demande de vous souvenir de ça, le symbolisme de l'entrée de l'évêque dans l'église pour la célébration, c'est quelque chose qui est fondamental. Je vous ai déjà parlé de ça, j'ai dit que le père Alexandre Schmemann parle beaucoup de ça. Il parle du symbole de l'entrée. L'entrée, parce que l'entrée, si vous voulez, ça symbolise, ça actualise l'entrée du Christ lui-même. L'évêque n'est pas à la place du Christ, hein, mais il est l'icône, en quelque sorte, du Christ dans la liturgie. Et quand il entre, il est l'icône du Christ qui entre. où est-ce qu'il entre, le Christ, il entre dans le monde qui est chez lui, et après ça, il entre auprès du Père. Il se présente auprès du Père, quand il remonte auprès du Père, il retourne auprès, et il monte auprès du Père avec toute l'humanité qu'il porte dans son cœur et dans son corps, dans son incarnation réelle. Donc, c'est pour ça qu'ici, oui, ils ont commencé sans l'évêque. Et puis alors, c'est intéressant parce qu'il dit, et voilà qu'arrive l'évêque, exce et supervenit episcopus. Voilà, voici, donc c'est-à-dire qu'on considère que l'événement de l'arrivée de l'évêque et l'entrée de l'évêque est un élément extrêmement important. Donc, de 4e siècle. Donc, ça veut dire que nous, ce que nous faisons, quand on dit Monseigneur Joseph va arriver à 10 heures, tous les prêtres doivent être habillés, tout est prêt, et à 10 heures moins 1, moins 2, hop, on sort du sanctuaire avec l'évangile, les encensements, la croix, etc., pour attraper l'évêque qui est à l'entrée. Et on entre avec lui. Ça, c'est très ancien. Très ancien. Là. Et ça met aussi en valeur le caractère épiscopal de l'Église et le caractère épiscopal de la liturgie. La liturgie est épiscopale. Qu'est-ce que vous voulez ? Bien sûr, on célèbre souvent sans l'évêque parce qu'il ne peut pas être partout. Et donc, ça donne des liturgies presbytérales. Mais ce n'est pas la forme basique. La forme basique, c'est la liturgie épiscopale. Donc ça, c'est très beau. Mais qu'est-ce qu'elle vient de décrire là ? Elle décrit simplement un office de vigile. C'est l'office des matines. Puis après ça, elle va décrire les autres offices qui existaient, les offices des heures, on l'appelait petites heures ou grandes heures, qu'on appelle sexte, sixième heure et neuvième heure. Bon, et puis ce qu'ils appellent après ça le lucernaire. Le lucernaire, c'est l'office de vêpres. Le lucernaire, c'est le moment où on allume les lumières du soir. Donc le matin, on a un office qui est lié au lever du soleil, qui est l'office de matine. Et le soir, on a un office qui est le coucher du soleil, mais avec la lumière qu'on allume, qui est la lumière du Christ, qui est dans les ténèbres. Je peux vous dire ce qu'elle dit sur le lucernaire. C'est assez tôt, d'ailleurs, parce que c'est 4-5 heures d'après-midi. Je ne sais pas par quelle saison. Quand même, il ne fait pas nuit à cette heure-là. Enfin, bon, c'est relativement tôt. Nous disons, nous, le lucernaire. Alors, on note ici, c'est l'office qui prendra plus tard le nom de vêpres. Il commençait à l'heure où l'on allume les lampes, d'où son nom de lucernaire. Voilà, c'est, vous pouvez retenir ça. C'est l'office de vêpres, c'est l'office qu'on célèbre au moment où on allume les lampes. Et, alors, elle ne le dit pas, mais je pense qu'on peut le dire sans erreur. Puis à ce moment-là, a été chanté, dès le 4e siècle, l'hymne Lumière Joyeuse, Lumina Lina. C'est très, très, très ancien, ça. On sait que c'est très ancien parce que c'est dans toutes les liturgies. Donc ça vient sûrement de Jérusalem et c'est resté dans toutes les liturgies, même si elles sont différentes les unes des autres. C'est comme le Gloria, la grande doxologie, c'est dans toutes les liturgies. Mais là, n'en parle pas. Bon, souvent, elle emploie l'expression « on chante des hymnes », mais elle ne dit pas « qu'est-ce que c'est comme hymne ?» On aimerait bien savoir. On n'a pas tout. Alors, Lucien, quand même, je regarde un petit peu ça. Après ça, on parlera de la durée. Ah, c'est intéressant. Je vous lis quand même ce qu'elle dit pour le lucernaire. Vous allez voir, c'est la même structure. Une première partie où tout le monde se réunit et chante des hymnes, et après ça, on va chercher l'évêque. Vous allez voir. Donc, à la 10e heure, a lieu ce qu'on appelle ici, c'est-à-dire Jérusalem, lucernaire. Toute la foule se réunit de même. On allume tous les flambeaux, les cierges, ce qui fait une lumière extraordinaire. La lumière n'est pas apportée du dehors, mais elle vient de l'intérieur de la grotte où nuit et jour brille sans cesse une lampe. Donc ça, c'est important. C'est la lumière qui est sur l'autel. C'est celle-là qu'on prend pour allumer tout dans l'église, comme à Pâques, en fait. On dit les psaumes lucernaires, ben ça c'est ce qu'on a, hein. Seigneur, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, le psaume qu'on chante, qu'on dit pendant le petit encensement. C'est ça ce qu'on appelle le psaume lucernaire. Et aussi des antiennes, assez longtemps. Alors c'est important, c'est-à-dire qu'il y a probablement ici la trace de ce que nous avons, c'est-à-dire qu'on dit le psaume lucernaire, et puis à l'intérieur de ça, il y a des versets. ce qu'on appelle ici anciennes, si on prend les versets qui sont intercalés dans le psaume lucernaire. Maintenant, quels étaient ces versets? D'après les spécialistes, c'était des versets psalmiques. C'était, on prend un verset dans un psaume et on le met dans ce psaume-là. Mais ce n'était pas ce que nous avons nous maintenant, c'était des versets patristiques, des strophes patristiques qui s'intègrent dans le psaume. Alors, donc on fait ça, on dit les psaumes, voilà qu'on va avertir l'évêque, voilà. Il descend et s'assoit sur un siège élevé, et les prêtres aussi s'assoient à leur place. On dit des hymnes et des antiennes. Alors il dit en note ici, les psaumes lucernaires comportaient entre autres, d'après divers témoignages, le psaume 140. Parmi les hymnes figurait très vraisemblablement le célèbre Fos Hilaron, c'est-à-dire Lumière joyeuse et Lumina Lina, que les constitutions apostoliques que je vais apporter ici désignent comme Hymnos Hesperinos, c'est-à-dire l'hymne vespéral, l'hymne par excellence. Mais ce sont des gens qui font ces livres-là, ce sont des spécialistes, dont je les crois. Mais on n'a pas tellement de manuscrits, on n'a pas tellement. Oui, c'est la vieille édition des sources chrétiennes, la mienne, parce que j'avais acheté ça d'occasion il y a longtemps. Édition des sources chrétiennes de 1948. Vous voyez, c'est la vieille édition. Bon, donc vous voyez ce qu'on fait. On va avertir l'évêque, il descend, et on dit des hymnes et des antiennes. Et quand on les a dit d'un bout à l'autre, comme d'habitude, c'est important, oui, on les a dit d'un bout à l'autre, c'est-à-dire que les hymnes sont dits vraiment de manière complète. L'évêque se lève, se tient debout, devant la grotte, un des diacres fait mémoire de chacun comme c'est d'habitude. Chaque fois que le diacre prononce un nom, toujours un grand nombre d'enfants de cœur qui sont là, debout, répondent « Kyrie eleison », comme nous disons « Fais-nous miséricorde ». Et leurs voix font un bruit extraordinaire. Donc ça, c'est la forme de la litanie, tout simplement. C'est-à-dire qu'une fois que l'évêque est là, on a une prière litanique, ou lectanie, comme on dit en roumain. Voilà, quand le diacre a fini de dire ce qu'il a à dire, l'évêque fait d'abord une prière. Et ça, c'est bien la structure que nous avons. Lectanie, et quand lectanie est finie, il y a la prière dite par l'évêque ou par le prêtre. Fait d'abord une prière. Il prie pour tous, et tous prient en même temps, aussi bien fidèles que catéchumènes. Donc ça qui est assez important aussi, ça rejoint une chose que j'ai dit les cours précédents, c'est que le peuple participait complètement à la prière. On n'a pas encore à cette époque-là un système de monopole, si je peux dire, des chantres qui chantent tout, qui répondent tout à la place du peuple, et le peuple qui dit rien du tout. Et là, au contraire, vous voyez, on voit très bien tous, oui, il dit, il prie pour tous, et tous prient en même temps, aussi bien fidèles que catéchumènes. De nouveau, le diacre élève la voix, demandant que tous les catéchumènes qui se trouvent là baissent la tête. Qu'est-ce qu'on a à nous? On a ça, incliner la tête devant le Seigneur. Alors, ici. Et l'évêque, debout, prononce la bénédiction sur les catéchumènes. On fait encore une prière. De nouveau, le diacre élève la voix et demande que chacun des fidèles qui se trouvent là baisse la tête, inclinant la tête devant le Seigneur. Comment est-ce qu'on dit? Moi, je ne sais plus. L'évêque bénit encore les fidèles, alors le renvoi a lieu. On commence à s'approcher de l'évêque pour lui baiser la main un à un. C'est intéressant, c'est ce qu'on fait, nous, il le faisait déjà au IVe siècle, d'embrasser la main de l'évêque. Après quoi, on conduit l'évêque, on le reconduit au chant des hymnes, et tout le peuple va aussi avec lui. Une fois arrivé là, il fait d'abord une prière, puis bénit les catéchumènes, puis fait une autre prière, puis bénit les fidèles. Donc ça revient beaucoup, ça. Le rôle de l'évêque, c'est qu'il prie pour les fidèles et prie pour les catéchumènes, chaque fois. Parce qu'en fait, les catéchumènes sont là autour, ils sont présents dans l'église, ils sont pas séparés, vous voyez. Et après cela, bon, on se rapproche de même pour baiser la main de l'évêque. Tout cela prend fin avec la tombée de la nuit. C'était donc l'office de vêpres, ça, vous voyez. Et donc l'office des vêpres, si on comprend bien, il comporte deux parties, une partie avec l'évêque, une partie sans l'évêque, qu'on retrouve chez nous, parce qu'on a aussi l'entrée. Dans l'office des vêpres actuel, je parle des grandes vêpres, hein. L'office des grandes vêpres, il y a également une entrée, et ça, c'est des restes de ça, c'était dans la liturgie pontificale, normalement, ça devrait être l'évêque qui entre. Je crois qu'en fait, le typicon donne quelque chose d'autre, et quand il y a actuellement l'office de grandes vêpres présidé par un évêque, il me semble que l'évêque reste à l'autel, et que les prêtres sortent et viennent vers lui. Mais ici, la pratique ancienne donnait peut-être plus d'importance à l'évêque. Enfin, donc, toujours est-il que la grande entrée de l'office d'évêque correspond à ces déplacements qu'on a ici. Et puis le reste, vous voyez, c'est continuellement des psaumes, des hymnes et des prières dont on ne connaît pas le contenu exactement. Bon, il me reste un petit peu de temps. Parlez-vous, lire le passage qui correspond à la fête demain, après-demain, Lazare. Alors, le samedi de Lazare. Bon, donc on a tous les psaumes, comme d'habitude. Alors oui, alors elle dit quelque chose qui est important, elle le dit à d'autres endroits, mais elle le dit beaucoup à cet endroit-ci. Elle insiste beaucoup sur le fait que toutes les lectures bibliques qui sont faites sont adaptées à la circonstance, sont de circonstance. Et si c'est le matin, on lit un texte biblique qui correspond au matin. Si c'est la résurrection de Lazare, on lit bien sûr l'évangile qui va avec. Je ne sais pas pourquoi elle insiste là-dessus, parce que ça paraît normal. Ça paraît normal de lire des textes bibliques, des psaumes, des livres des prophètes qui soient adaptés à la circonstance. Mais elle insiste beaucoup là-dessus, comme si ça l'avait frappé. Elle dit tout le temps ça, les lectures sont adaptées. Voilà, il est ici, pardon. On dit toujours à toutes les vigiles des psaumes et des anciennes, toujours appropriés tant au lieu qu'au jour. Mais ça, cette phrase-là, elle la dit souvent. C'est-à-dire que la parole, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, cette sanctification du temps, mais que la parole de Dieu colle à la réalité, ou la réalité colle à la parole de Dieu, je ne sais pas. Mais la parole de Dieu, c'est sauve le temps et l'espace. Non, c'est ce qu'on a fait justement avec le diacre Bogdan, pour en parler, pèlerinage où j'ai participé, dans chaque endroit où on allait, on lisait l'évangile correspondant à ce lieu-là, évidemment. C'est du bon sens, il n'y a pas besoin d'insister dessus comme elle le fait, je ne vois pas pourquoi. Bon. Alors, justement ici, c'est intéressant, à propos du samedi de Lazare, là elle parle de l'Eucharistie, elle dit « Quand arrive le matin du samedi, au point du jour, donc à la première heure du jour, l'évêque offre le sacrifice et fait l'oblation du samedi matin. » Au moment du renvoi, l'archidiacre élève la voix et dit que tout le monde soit là aujourd'hui à la septième heure au Lazarium. C'est-à-dire qu'il invite tout le monde à se rendre. Ah, vous allez voir, le Lazarium, c'est Béthanie. Mais donc ici, on a un phénomène liturgique qui est intéressant. C'est que pour nous, pas pour moi, disons, les offices, les petites heures, vêpres, matines, tout ça, ça précède la liturgie eucharistique. Comme le sommet, en quelque sorte, le couronnement de tout ce qu'on a dit auparavant. Et bien ici, non, c'est le contraire. On commence par célébrer l'Eucharistie, et après ça, on dit aux gens, bon, maintenant, tout ce qui est communié et tout, allez hop, on va tous à tel endroit, et on va faire une grande procession, une grande... Alors, c'est plus une vigile, si vous voulez, mais le terme de vigile est employé quand même, dans un sens très général, dans le contexte du livre que je présente ce soir. Les chrétiens ont employé le terme de vigile pratiquement pour tous les offices. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait la mentalité qu'on attend la venue du Christ, qu'on attend le retour du Christ. Vous savez, dans le credo, on dit, je suis en grec, palin, romanon, en roumain, je ne sais plus, pardon, j'arrive pas à passer d'une langue à l'autre. Yarosh va venir pour Slava, c'est du Géché, Vige et mort. Voilà. Bon, ben, le Yarosh, c'est Viné. Ça, c'était la mentalité chrétienne de base, c'est que le Christ vient ou va venir. Donc, on est constamment en état de vigile, que ça veut dire, c'est très éveillé, ou vigilance, ça, comme disent les Romains aussi. Donc, on est constamment à veiller en fonction de ce retour du Christ. C'est pour ça que, quelle que soit l'heure de la journée, vigile, ça désigne un office dans laquelle la veille, la vigilance est la vertu principale. C'est pas forcément, donc faire attention. Pour nous, quand on parle d'un office de vigile, c'est souvent un office du soir. C'est vêpres plus matine, mais c'est le soir. Voilà. Mais on n'en parle pas. Non, on dit pas pour l'office du matin, on dit pas vigile, on dit orthros ou traîner. On dit pas. Oui, c'est pas du tout la même terminologie. Pour eux, le terme de vigile est un terme beaucoup plus général. Donc, Voilà, donc le diacre ou l'archidiacre, il convoque tous les gens qui sont là et leur dit, hop, rendez-vous là-bas. Quand on arrive, quand arrive la septième heure, tout le monde vient au Lazarium. Le Lazarium, c'est-à-dire Béthanie, est à peu près au deuxième mille de la ville. Quand on va de Jérusalem à Béthanie, à peu près à 500 pas de cet endroit, il y a une église sur la route, là où vint au devant du Seigneur Marie, sœur de Lazare. Mais c'est intéressant, ils avaient construit une église, donc au IVe siècle, il y avait une église qui était là, qui était l'endroit où Marie, la sœur de Marthe, était venue trouver le Christ. Vous connaissez ça dans l'évangile. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est très simple. À l'arrivée de l'évêque, parce que l'évêque arrive toujours après les autres, c'est pas qu'il est en retard, mais on marque toujours la venue de l'évêque. C'est vraiment intéressant, c'est tout le temps. À l'arrivée de l'évêque, tous les moines viennent au devant de lui, le peuple entre, on dit une hymne et une antienne, et on lit le passage de l'évangile où il est dit que la sœur de Lazare vint au devant du Seigneur, c'est-à-dire Jean chapitre 11. On fait une prière, et tous ayant été bénis, on va de là jusqu'au Lazarium, c'est jusqu'à Béthanie, au chant des hymnes. J'aurais dit, on dit encore des hymnes et des antiennes appropriées au jour et au lieu. Et de même, toutes les leçons qu'on lit sont appropriées au jour. C'est ce fou l'insistance qu'elle met à, sur le lien entre les textes et l'heure et le lieu où on se trouve. Voilà. Alors, ici, après ça, donc, avant que ça ne... Après ça, donc, il y a ce qu'elle appelle le dimanche où l'on entre dans la semaine pascale, appelée ici la grande semaine. Qu'est-ce que c'est? C'est le dimanche des rameaux. Ou, Kyriakiton Veron, comme disent les Grecs, c'est le dimanche des palmes. Comment est-ce que vous dites en romain Dominica?
Florida.
Oui, mais c'est pas Florida, c'est pas le dimanche des fleurs, c'est le dimanche des. Kyriakiton Veron en grec. Voilà. Et alors ici, après avoir célébré dès le chant des coqs ce qu'on a l'habitude de faire, le dimanche donc, au matin, on se rend comme d'habitude à l'église majeure. Quand tout a été célébré comme à l'habitude, l'archidiacre élève la voix et donne le programme de la semaine en fait. Et alors après ça, il y a une procession. Vers midi, c'est le jour des rameaux ça, tout le monde. Tout le peuple monte au mont des Oliviers, on dit des hymnes et des antiennes appropriées au jour et au lieu, et des lectures pareillement. Ensuite, on se rend à l'endroit où le Seigneur est monté aux cieux, et là on s'assoit. Tout le peuple, toujours, en présence de l'évêque, est invité à s'asseoir, il n'y a que les diacres qui restent toujours debout. On dit encore là des hymnes et des antiennes appropriées au lieu et au jour, et de même les lectures qu'on intercale et les prières. Et quand approche le 5 heures d'après-midi à peu près, on lit le passage de l'évangile où les enfants, avec des rameaux et des palmes, accoururent au devant du Seigneur en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », qui est Matthieu 21, 8-9. Et aussitôt l'évêque se lève avec tout le peuple, et alors, du haut du mont des Oliviers, on vient, tout le monde à pied, ça c'est très beau ce qui suit. Tout le peuple marche devant l'évêque au chant des hymnes et des antiennes, répondant toujours « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Tous les petits-enfants du pays, jusqu'à ceux qui ne peuvent pas marcher parce qu'ils sont trop jeunes et que leurs parents portent à leur cou, tous tiennent des rameaux, les uns de palmiers, les autres d'oliviers. Et ainsi on escorte l'évêque à la manière dont le Seigneur a été escorté ce jour-là. Du haut de la montagne jusqu'à la ville et de là jusqu'à l'Anastasie, en traversant toute la ville, tout le monde fait tout le chemin à pied, même les dames, même les hauts personnages, tous escortent l'évêque en disant les réponds. Donc c'est-à-dire les réponds, les refrains en quelque sorte. Hein. On va ainsi tout doucement, pour ne pas fatiguer la foule, et le soir est déjà venu quand on arrive à l'Anastasie. Arrivé là, bien qu'il soit tard, on fait pourtant le lucernaire, c'est-à-dire les vêpres, puis encore une prière, etc. Donc vous voyez, ce qui est intéressant dans ton sens, c'est que c'est la façon dont la liturgie reproduit l'histoire. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre un petit peu, encore que j'ai vu en Roumanie, dans notre Roumanie bien-aimée, le dimanche des rameaux, les fidèles mettent des vêtements par terre de leurs enfants, ils mettent des branches aussi, après ils reproduisent un peu, et l'évêque ou le prêtre principal, ou les prêtres, marche au moment de la la grande entrée, je crois. Oui, la grande entrée. Il marche sur les vêtements qui ont été mis là, et même quelquefois sur les enfants qui se couchent. Et donc ils actualisent en quelque sorte cette procession du Christ entrant dans Jérusalem. Et donc ici, vous voyez, c'était une procession à l'extérieur. Alors il faut quand même savoir ça, que cette procession à l'extérieur, elle a existé. Elle existait dans toutes les églises. Elle a disparu. Elle a disparu de l'office byzantin de notre église. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Mais en fait, elle a subsisté dans d'autres liturgies. Liturgies occidentales, par exemple, ont conservé une très très belle procession des rameaux. Donc, tous sortent de l'église avec les prêtres ou l'évêque s'il est là. On fait le tour de l'église comme à Pâques. Un peu, c'est comme un prorode en quelque sorte. Hein. Mais ce n'est pas le prorode à Sainte-Évieri, c'est le prorode des rameaux, en quelque sorte. Et ils sortent en chantant les chants, et tout le monde porte des rameaux, etc. Et ils reviennent jusqu'à l'église, et là, l'évêque tape sur la porte 3 fois, et on entre exactement comme à Pâques. Alors ça, c'est très ancien, malheureusement, ça s'est perdu. Et moi, je fais partie des personnes qui trouvent qu'on devrait restaurer cette belle procession des rameaux, parce que mais là, vous voyez, c'était magnifique. Évidemment, c'était à Jérusalem. Voilà, donc merci de votre attention sur ce livre d'Etheri que je vous recommande fortement. Voilà, donc la deuxième heure, comme je l'ai dit, c'est la présentation, l'étude et le commentaire du typicon de notre église. Donc je rappelle que je présente ici le typicon de l'église roumaine, dans une version qui a, sur certains points, été modifiée récemment. Donc j'avais dit ça, que les éditions de la liturgie du patriarcat roumain en 2002-2012 donnent quelques différences quand même. Ça, je tiens à le dire pour commencer, aussi pour les étudiants qui nous rejoignent. Que le typicon n'est pas une espèce de mécanique fixe, obligatoire, académique. On n'est pas des robots liturgiques. Mais donc, il y a une ordonnance de la liturgie, mais ceci est mobile, ceci est souple. Quelquefois, on redécouvre aussi des éléments de la tradition qu'on a perdus. Il y a aussi, on tient compte aussi peut-être des milieux, du contexte. Donc, c'est assez intéressant. Enfin, globalement, donc, c'est quand même imprimé, on est quand même tenu, les prêtres, donc ceux qui sont à la... qui organisent la célébration, les prêtres, les diacres, les évêques, sont tenus de suivre le typicon, non pas parce que c'est l'évangile, parce que c'est pas l'évangile, mais surtout pour pouvoir célébrer ensemble. Si on ne suit pas le typicon, on ne peut pas célébrer ensemble. Ça m'arrive assez fréquemment de me trouver dans les églises où je ne sais pas ce que font les prêtres, c'est tellement différent de ce que je crois savoir que je les suis un petit peu, mais j'ai quelquefois du mal à célébrer avec mes collègues. Surtout, pas tellement pour la déminiturgie, encore que, mais surtout dans les offices, les autres offices. C'est vraiment très difficile. Et là, récemment encore, un prêtre où j'étais a voulu que je préside. En tant que doyen, il m'a dit que je dois présider l'office de l'onction, le marslou. Je lui ai dit non. Non, présidez vous-même, Père, je vais faire avec vous, parce que je ne sais pas comment vous vous organisez. Et effectivement, ils avaient leurs habitudes à eux. Donc ça peut dire aussi que le typicon, c'est quelque chose de très souple, quand même. C'est bien que ça soit souple. Mais si c'est trop souple, on ne sait plus, quelquefois, très bien. Bon, alors là, je suis dans la liturgie. La dernière fois, donc, j'avais parlé de l'entrée, justement, de la lecture de l'évangile et de la prière qui est dite auparavant, c'est-à-dire resplendit, fait luire dans nos cœurs la lumière de ton saint évangile et donne-nous la grâce de comprendre ta parole. Et cette prière-là, c'est intéressant parce que lui dit. Donc cette prière, effectivement, elle est dite en secret. Moi, j'ai pris l'habitude, mais j'ai peut-être tort, de la dire à haute voix. Je vois quand même beaucoup d'entre nous, les évêques aussi, disent maintenant cette prière à haute voix, c'est important, parce que c'est une prière, avant qu'on entende l'Évangile, on demande à Dieu, par son Saint-Esprit, de nous éclairer, d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs pour comprendre sa parole. Donc c'est une prière qui peut être dite pour tout le monde, quand même. Mais la tendance dans l'édition que j'ai ici, mais c'est pas une insolence de ma part, hein, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues, c'est 1976, dans ces années 1976, la tendance était quand même beaucoup de dire les prières secrètement. Ce que nous faisons maintenant, de dire les prières à haute voix, c'est quand même beaucoup plus récent. Ça ne veut pas dire que ce soit du modernisme, c'est probablement plutôt un retour à la tradition ancienne, mais ça marque plutôt l'époque contemporaine. Voilà. En plus, alors après ça, quand, ça la suite vous la savez, quand on a fini de lire l'apôtre, c'est-à-dire l'épître, le prêtre vient au milieu des portes royales, on avait discuté de ça l'autre jour, porte royale ou porte sainte, et il bénit le lecteur en disant « Paix à toi ». Celui-ci, alors, « Achète à trébuer sa romaine, il m'est l'occupe de l'ici, pour n'assister plus mèche, et bénigomène de la période de la conne du capul. » Donc le lecteur doit rester, il doit attendre la bénédiction de celui qui préside, du prêtre, avant de se retirer. Alors, je donne ça comme exemple, parce que dans la célébration de la divine liturgie et des autres offices, mais le prêtre, pas celui qui préside, quelquefois il y a plusieurs prêtres, hein, mais celui qui est le protos, il est continuellement à donner la bénédiction pour ceci ou pour cela. Par exemple, le diacre ne sort pas de l'autel pour aller dire une litanie sans avoir la bénédiction. Et quand il revient à l'autel, il s'incline devant le Christ qui est au fond, il se tourne vers celui qui préside et il demande à nouveau la bénédiction. Alors pourquoi ça? Est-ce que c'est de la tyrannie des prêtres, je ne sais pas quoi? Bon, pas du tout. Pas du tout. C'est un problème d'ordonnance. En fait, le prêtre, celui qui préside, l'évêque ou le premier prêtre, si vous voulez, il est le responsable de la célébration. Il est le responsable de la célébration devant les autres, devant l'évêque, si l'évêque n'est pas là, et devant l'Église. Et donc, en tant que responsable, c'est lui qui gère la célébration. C'est lui qui... Et donc, par exemple, un lecteur ne lit pas sans avoir la bénédiction, ça, c'est pas possible. Hein. Vous voyez, ça m'est arrivé l'autre jour, l'année que je l'étais, quelqu'un a commencé à lire sans avoir la bénédiction, on a envoyé quelqu'un le chercher, qui t'a donné la bénédiction pour le dire? Mais ici, on fait comme ça. Non, non, non. Et l'autre jour, dans une autre église, pour vous dire, quelqu'un, pendant la liturgie, a déplacé l'icône qui était au centre de l'église, il l'a mis sur le côté. Je l'ai appelé après, il dit, mais qui t'a donné la bénédiction pour faire ça? Donc, si vous voulez, c'est quand même, si vous voulez, les prêtres, on n'est pas seulement des distributeurs de sacrements, nous sommes des hommes, on a une fonction de responsabilité très grande. On n'est pas meilleur que les autres, si vous voulez, c'est pas ça la question. Mais on a cette responsabilité, tout ce qui se fait dans l'Église, pendant le temps de la célébration, on en est responsable. Et si c'est un autre prêtre qui vient, il sera responsable pendant le temps de la célébration. C'est pareil. Même moi, par exemple, qui suis recteur d'une paroisse, si c'est un autre prêtre que moi qui préside, je le laisse, je ne m'occupe pas de ce qu'il fait. C'est lui qui préside. Le ministère de la présidence, c'est ça qui est normatif. Même, quelquefois, j'aurais fait peut-être autrement, mais c'est lui qui préside, je respecte. Donc, vous voyez ici, le lecteur reste au milieu de l'église jusqu'à ce qu'il y ait la bénédiction du prêtre. Voilà. Bon, et après ça, vous savez très bien qu'il y a le chant de l'Alléluia. Alors, normalement, le prêtre dit « Paix à toi qui es lu, pas chitié, chitito roulé, kishidou kurtou » et quelqu'un dit lui-même « Alléluia, Alléluia, Alléluia », c'est-à-dire qu'il indique au chantre qu'on va chanter « Alléluia ». Il y a un principe, un triple « Alléluia » dit, pas chanter, dit. Et c'est ça qui donne la suite, parce que la liturgie, si vous voulez, c'est une réalité c'est une architecture. Et donc il faut que ça s'enchaîne bien, que ça s'articule bien, faut pas qu'il y ait de trous, s'il y a des silences, des vrais silences, mais pas des faux silences, vous voyez, pas des pannes. Il n'y a pas de panne liturgique. Et donc pour pas qu'il y ait de panne liturgique, il y a des indications qui sont données continuellement pour passer au mouvement suivant d'une manière harmonieuse, d'une manière synchronisée. La synchronisation, la coordination est un des éléments fondamentaux de la liturgie. Voilà, donc, les chantres chantent Alléluia, d'accord, et on met un lutrin pour la lecture de l'évangile, ça vous savez très bien, et elle est mise en face des portes royales ou saintes, sur la soléa, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la soléa? C'est une petite languette qui est devant les portes. Je pense qu'on a ça ici à la cathédrale. Dans la plupart des églises, on a ça, c'est une petite marche. C'est assez important, ça. Ça veut dire que l'évangile est lu sur cette place-là. Il n'est pas lu dans la nef directement. Il est lu sur une place un petit peu en hauteur pour plusieurs raisons. D'une part, pour être entendu, mais aussi pour signifier que celui qui lit l'évangile, c'est le Christ lui-même qui parle et qui prêche. Et que le Christ, il sort du sanctuaire. Il sort du sanctuaire, il sort de son trône, il est à ça. Donc normalement, ça devrait être comme ça. Dans la pratique, je sais très bien que souvent, l'évangile est lu là-bas, et même dans certaines églises, l'évangile est lu en haut d'une chaire. Ça, malheureusement, ça ne se fait plus du tout, c'était très bien. Ça, moi, j'avais vu en Roumanie des diacres absolument extraordinaires qui montaient par la tribune, comment ça peut s'appeler ça, à Lambon, puis d'Ambon surélevé, et qui proclamait l'évangile, mais de manière magnifique. C'est très beau, ça. Bon. Mais en principe, si on suit le typicon rigoureusement, l'évangile doit être lu de cette petite languette. Hein. Parce que c'est le Christ prêche à partir du sanctuaire, à partir de l'autel dont il vient. Voilà, donc, et il doit être lu entre deux. C'est-à-dire, ça a un sens théologique, les choses. L'évangile est lu à cet endroit-là, et il est lu entre deux lumières, parce que les lumières signifient justement la gloire du Christ, la gloire de la parole de Dieu. Ou bien, alors il y a une autre façon de faire, ça c'est plutôt l'habitude que j'ai vue dans l'église russe, c'est-à-dire qu'on a un seul flambeau mis au milieu, en face de l'évangile. Donc, soit deux flambeaux, soit en bas. Mais de toute façon, la lumière doit être portée. Et elle doit être portée au moment où l'évangile sort pour être lu. La lumière doit le précéder, parce qu'on précède le Christ qui va prêcher. Et quand c'est, je ne sais pas dit là-dedans, et vous savez, quand c'est une liturgie pontificale, ici c'est la liturgie presbytérale. Mais la liturgie pontificale, c'est très beau, parce qu'on prend les deux flambeaux de l'évêque, le triple et le double, et on sort avec ça, dès que l'évangile est lu, et il est lu entre le flambeau, le triple flambeau et le double flambeau. C'est-à-dire que l'évangile est lié à l'épiscopat aussi, à l'enseignement de l'évêque, à la responsabilité de l'évêque. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut bien faire tous les gestes de la liturgie, les rites de la liturgie, il faut toujours les faire très bien, parce qu'ils ont un sens. Un sens, oui. Alors, donc ici, dans le typicon que j'ai, il me parle que la liturgie presbytérale. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe après? Après la lecture du Saint-Évangile, on dit le cœur, la salane, ala au cœur, ce kuntera. On chante, cela veut dire, doit amener cela veut dire. Bon, entre nous, tout le monde devrait répondre. Ça, c'est l'ensemble du peuple qui devrait répondre. Pas dans le typicon de cette date-là, mais c'est encore, bon, c'est la salana qui rend le service, si vous voulez, des réponses, c'est bien. Actuellement, dans la pratique, dans les paroisses, le slavetier doit amener le slavetier, c'est dit par tout le monde, hein. Ce qui est très bien. Et le prêtre, donc, une guidée ferme l'évangile, l'embrasse, et, oui, c'est ça, le tournant vers les fidèles, il les bénit avec la croix. Bon. Alors, tout ceci a un sens. Pourquoi, par exemple, il le ferme? Ah bah oui, parce qu'il doit le fermer, mais non, c'est pas ça, c'est pas uniquement ça. C'est que ça signifie, puisque j'ai lu ça quelque part, ça signifie l'accomplissement de la parole. Dans certaines icônes, l'évangile est fermé, ça veut dire que tout est accompli. Et dans certaines icônes, au contraire, l'évangile est présenté ouvert, surtout dans les icônes influencées par la tradition occidentale et romane, l'évangile est ouvert, et sous l'évangile ouvert, il y a marqué Alpha et Oméga, ça c'est ça vient de l'Apocalypse. Mais donc, il y a les deux façons de faire. Mais en tout cas, le fait de fermer, ça veut dire tout est accompli. Et c'est le prêtre qui ferme, c'est pas le diacre. Et ce n'est pas, quand il y a plusieurs prêtres qui célèbrent, c'est le premier des prêtres qui doit faire ça. Et normalement, il embrasse, c'est pas dit ici, mais il doit embrasser le texte qui a été lu. Pas seulement la couverture de l'évangile, mais la parole qui a été lue. Donc, il faut que le diacre présente au premier prêtre l'évangile après l'avoir lu, s'il y a un diacre, pour qu'il embrasse là, et quand il a embrassé là, le texte qui a été lu, il ferme, et avec ça, effectivement, il le tourne. Alors, ils ne le disent pas ici, mais il doit le tourner avec la fosse, l'image de la résurrection. Si c'est le dimanche. En semaine, c'est autre chose, mais imaginez qu'on est le dimanche, l'évangile doit être fermé, et la partie de la couverture qui a l'image de la résurrection, celle-là doit être tournée vers le peuple, et c'est avec cette icône de la résurrection que le prêtre bénit les fidèles. Donc ce sont des moments qui sont très... C'est très beau, ça, vous savez, c'est très... Et je pense que d'ailleurs, il y a un problème de synchronisation. Normalement, le slavetier doit amener le slavetier, gloire à toi Seigneur, gloire à toi, ça pourrait coïncider avec le moment où on bénit. Et souvent, ça ne se fait pas, on chante gloire à toi avant, on bénit après, on bénit en silence. Pourquoi pas? Mais normalement, si vous voulez, cette bénédiction, c'est le Christ glorifié. Il y a une glorification de la parole. Le Christ vient de prêcher, il est glorifié. Et c'est pas... Et donc, à ce moment-là, on le tient assez longtemps, d'où peu après ça, bon, il se retourne, et il le met à sa place, bon, etc. Oui, ce qui est important, c'est précisé ici, c'est que quand l'évangile est reconduit à l'autel, il est posé sur l'autel, mais il n'est pas posé sur l'antimension. Vous avez dit ça, je crois, la dernière fois, que pendant la première partie de la déminiturgie, l'évangile est posé sur ce qu'on appelle l'antimis, l'antimension, qui est ce tissu qui porte la signature de l'évêque. Une fois qu'il a été lu, on le met ailleurs, parce qu'on va déplier l'antimension sur laquelle il y a la signature de l'évêque qu'on va embrasser. Donc il y a vraiment deux parties très très nettes. La deuxième partie de la liturgie, donc après l'évangile, c'est ce qu'on appelle la liturgie des fidèles. Et donc, il y a beaucoup d'éléments différents. De toute façon, l'évangile a été lu. Ça veut dire que le Christ a dit ce qu'il avait à dire au monde, et après avoir dit, après avoir parlé, il se sacrifie. Donc dans la vie du Christ, quand on lit l'évangile, on voit très bien comment c'est. Il y a une première partie de sa vie où il a prêché, il a enseigné, et puis après ça, il n'a plus enseigné, mais il est monté sur la croix. Ça, c'est les deux parties du ministère du Christ. Donc c'est intéressant que la liturgie comporte deux parties qui correspondent justement aux deux parties de la vie du Christ. La partie enseignement et la partie oblation de soi. Jeff de Chine, parta unte, parta propre veduiri, a prederi, je ne sais pas, enseignement, et la partie de sacrifice. C'est très intéressant. J'avais pas pensé à ça auparavant. La liturgie des catéchumènes et la liturgie des fidèles sont deux parties qui correspondent à deux parties de la vie du Christ. De raison, ça, oui. Voilà, donc vous rappellerez de ça, c'est important. Bon, qu'est-ce qui est important après? Et on ferme. Inquidis spinte de ouch, chi luminica, c'est juste d'une casagne, explica. Bon, là, ça a beaucoup changé quand même. On dit le dimanche, on dit c'est chitejte, explica l'évangélie et chitite. Ben, ça, c'est quand les prêtres n'ont pas la foi. Force, la préparation nécessaire pour prêcher. Ils doivent au moins lire dans un recueil les homélies de Saint Jean Chrysostome, de je ne sais pas qui, ils doivent le faire, et ils doivent le lire à ce moment-là. Alors ça, c'est très intéressant, parce que vous savez très bien que dans beaucoup d'églises orthodoxes et orthodoxes roumaines, ou grecques, ou autres, les prêtres ne prêchent pas, et ils parlent à la fin de la liturgie. Alors... Pourquoi? Parce que avant ça, les fidèles ne sont pas là, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. La prédication, l'homélie doit être faite à ce moment-là, parce que l'homélie, canoniquement, est toujours un commentaire de l'évangile. Il doit être ça, l'explication de la parole. Or, si on reporte l'homélie à la fin, quelquefois, l'évangile est un petit peu loin. Ce qu'il dit, de quoi il parlait, c'est quoi l'histoire d'aujourd'hui? C'est pour ça que quelquefois les prêtres commencent, avant de prêcher, ils commencent par raconter l'évangile, faire un résumé pour bien rappeler. Mais normalement, vous voyez ici, c'est quand même, ça reste ici quand même, vous voyez, l'explication de l'évangile a lieu après la lecture, rigoureusement après. Et c'est normal parce que c'est la fin de la première partie de la liturgie des catéchumènes. Donc tout l'élément didactique si je m'exprime bien, oui, didactique, c'est terminé. Après ça, c'est plus ça, c'est autre chose, c'est une prière, c'est l'offrande, c'est l'oblation, ça n'a aucun rapport. C'est comme de lire, par exemple, des commentaires ou des enseignements des pères pendant la communion du clergé. Ça se fait dans certaines églises, mais je dois dire à mes collègues qu'ils ont tort, ils ont pas à faire ça, parce que c'est pas le moment pour quoi que ce soit de didactique. Tout ce qui est didactique, c'est dans les théologies catéchumènes, mais ce qui est dans les théologies des fidèles, c'est mystagogique, c'est pas didactique. Ah bon. Après ça, les prêtres font comme ils peuvent aussi. Hein, je suis là pour suggérer ce qui est bien, mais je ne critique pas. Je connais très bien que mes collègues font ce qui de leur mieux, qu'ils font mieux que moi aussi. Donc, il n'y a pas de prétention non plus. Mais je dis quand même les choses. Bon, et après ça, donc, c'est la litanie, qu'on appelle la litanie intense, ou en roumain, c'est ecténier. Ectenie intrite. Comment est-ce que c'est en français? Litanie. Instant, en français. Oui. Litanie instant. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est instante? Parce que c'est celle à laquelle on répond par trois fois. Qui est l'Eisen? Dwamne Lujeshti. Voilà. Donc, Bon. Et alors, donc, il dit la prière. Si le prêtre est seul, c'est pas possible. Le prêtre peut pas dire tout bas la prière en disant les litanies. Et donc, effectivement, dans le cas où il y a un diacre, souvent, à tort ou à raison, souvent, pendant que le diacre fait les litanies, le prêtre dit in petto la prière. Mais c'est un peu dommage, parce que la prière est très intéressante. La prière ici, elle dit Seigneur notre Dieu, reçois cette prière instant de notre part, écoute si c'est vite. Il y a quelque chose que le prêtre dit et que les fidèles peuvent entendre quand même. Enfin bon, c'est une discussion qu'on a déjà eue, que je crois qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire là-dessus, c'est que dans la liturgie, toutes les prières doivent être dites à haute voix, sauf éventuellement les deux prières qu'on appelle les prières des fidèles, et qui sont les deux prières qui suivent la prière des catéchumènes, et qui là en fait concernent directement le prêtre dans sa position de président. Donc, mais autrement, toutes les autres prières doivent être dites à haute voix. La prière pour les catéchumènes, elle a été dite à haute voix parce que ça concerne tout le monde. Oui. Mais là, par exemple, je veux dire que moi-même, actuellement, nous célébrons la liturgie de Saint-Basile, donc du coup, les premières prières de la liturgie qui sont celles de Saint-Jean-Chrysostome, en fait, qu'on entend souvent, je les dis à voix basse, de façon à équilibrer, comment avoir une grande prière de Saint-Basile après, pour être un petit peu intelligent. Pour alléger un petit peu le début, pour avoir le. Oui. Mais ça, c'est une économie, disons. Il vaut mieux dire à haute voix toute la prière de Saint-Basile, et puis, donc, il faut dire à voix basse des prières qu'on entendait habituellement, vous voyez. Alors, je regarde ici. Oui, et dans cette litanie, vous savez très bien qu'on peut introduire des demandes particulières. C'est dans la litanie instante, donc là. Ectenia intreite, c'est là qu'on introduit des prières pour les malades, des prières pour ceux qui se préparent à l'ordination de prêtre, que l'on doit introduire, je l'ai suggéré à mes collègues là, introduire une prière pour les évêques qui préparent le concile panorthodoxe, par exemple. Ça, c'est là qu'il faut le mettre, vous voyez, ou pour le pays, si le pays a des élections, ou s'il se passe quelque chose de particulier, c'est dans cette litanie triple qu'on introduit les demandes de circonstances, en quelque sorte. Alors, on prie « Pentuce, calesce, pergates, pentuconunie, pentuce, cales, vor, je sais pas quoi, ça qui attend un enfant, qu'achetapte un prunk. » Bon, voilà, toutes les choses de la vie. C'est important de le faire. Je vous le dis, parce que souvent, on ne le fait pas. Par exemple, il y a une ordination, on ne savait pas, on n'a pas prié pour le garçon qui devait être ordonné diacre ou prêtre. Or, si on le savait un mois auparavant, on pouvait dire « Pentuce, pentru robu Dumnezeu acela, care se pregătesc pentru hirotonie ca diacon sa copreot, ce Domnul se ne rugăm. » Voilà, prions pour, pourquoi pas, vous voyez. C'est-à-dire que l'ensemble de l'Église est intéressé. Mais bon, il faut l'encourager, ça. Donc il dit « Quand est écasul, entre penultimul și ultimul aliniat al ectiniei, se intercalează cerele speciale pentru diferite trebuințe aflate mai spre sfârșitul liturghierului. » C'est-à-dire qu'effectivement, à la fin du livre hier, il y a des intentions de prière qui sont suggérées. Et c'est vrai que les prêtres, je vois Mgr Joseph, et les autres aussi le font, mais Mgr Joseph le fait beaucoup, ça. Il va chercher à la fin des prières pour les malades, des prières de, je ne sais pas quoi, bon, et ça c'est très bien. Cette partie-là de la liturgie, la partie de la litanie instante, c'est une belle partie, très communautaire, où on prie pour le monde, on prie pour des choses de la vie, les malades, les vivants, ceux qui se réjouissent. Bon. Alors, après ça, vous devez savoir que on a après cette litanie instante, il y a quelle litanie ? La litanie pour les défunts. Voilà. Alors, en principe, pas le dimanche. Pas le dimanche, parce que le dimanche, c'est le jour de la résurrection, donc on ne prie pas. En aidant le mystère de la résurrection, du coup, on n'a pas à prier pour les défunts, puisque la prière pour les défunts, c'est une prière en vue de la résurrection. Donc, on prie pour les défunts tous les jours, y compris le samedi, mais pas le dimanche. Mais enfin, bon, dans la pratique, certains de mes collègues font autrement, parce qu'ils ont, peut-être qu'ils sont obligés, je ne me mêle pas. Hein. Mais c'est pour ça qu'il dit « Dac se face pomeni de pentruce reposat » Si on fait la mémoire des défunts, d'abord, il n'est que 9h30, ça va. Le prêtre ajoute litanie pour les défunts avec la prière Dieu des esprits et de toute chair. Et autrement, si on ne le fait pas, c'est-à-dire par exemple un dimanche ou même un jour de semaine, on n'est pas obligé de faire la litanie pour les défunts tous les jours, voyez, mon père. Bon, en tout cas, un dimanche, en principe, on ne la fait pas. Et dans ce cas-là, on fait, mais je crois toujours la prière pour les catéchumènes. C'est là, dans le typicon que j'ai sous les yeux, c'est intéressant, parce qu'il dit que, par exemple, la prière, l'ecténie, la prière pour les défunts, on peut ou ne pas la faire. En revanche, la prière pour les catéchumènes, la question ne se pose pas. On la fait toujours. Et même s'il n'y a pas de catéchumènes dans la paroisse où on est, il y a des catéchumènes sur la terre, dans les autres églises, quelque part. On ne les connaît pas tous. Mais on suppose qu'il y a une présence des catéchumènes. Et ça se rapporte un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure avec le journal des Théry. C'est que la présence des catéchumènes dans l'Église, c'est une présence normale. On prie toujours pour les fidèles, pour les catéchumènes. Ça fait partie de la vie de l'Église. Il n'y en a peut-être pas en ce moment, mais enfin, il pourrait y en avoir et il y en aura. Et s'il y en a, lorsque je recommande, ça c'est purement moi qui le fais, c'est de les nommer. Ah oui, voilà. Chez Kemas, voilà. Particulièrement, je crois comment on dit. En particulier, un tel, un tel, un tel. Il est nommé les catéchumènes dans la litanie des catéchumènes et dans la prière. Parce que ça intéresse tout le monde. Ça intéresse tout le monde. De même qu'il faut nommer les gens. Alors vous allez me dire aussi que ça dépend peut-être de la taille de l'église. Dans une des paroisses assez petites que nous avons, où il y avait 50 personnes, 60 personnes, 70 personnes à la liturgie, on peut nommer. Quand c'est... Dans certaines églises, même ici, il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Et il y a certaines paroisses où il y avait 600, 700 personnes le dimanche. Ça devient vite un peu anonyme, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je ne sais pas combien est-ce que vous avez de gens ici le dimanche. Il y a 500 personnes, 400 personnes. Donc c'est un peu difficile. Il est vrai que les prêtres et les diacres aient le courage de quand même nommer. Ça, c'est le danger de la liturgie, ça devient vite un peu anonyme, quoi, oui. Ah bon, si on peut. Mais on dit, rugaz ve che kemas domulime. Donc, ils sont là, il y a des gens qui sont là, qui ont un nom. Oui, on devrait les chercher, bien sûr. Oui. Ah, Kema, ça veut dire appeler. Et c'est intéressant de dire le mot roumain, parce qu'en français, on a catéchumène, qui vient du grec, Et les catéchumènes, ce sont ceux qui reçoivent. Catecho, c'est recevoir par exemple du pain dans la main, comme ça, et le garder. Mm-hmm. Les catéchumènes sont ceux qui reçoivent l'enseignement et qui le gardent. Mais chez Kemal, c'est ceux qui sont appelés. On leur dit, venez, venez. C'est pas propre. Poftitz, poftitz. Chez poftitz.
Et puis après, ils sortaient.
Ah oui, oui, oui. Ça, c'est très important de le faire aussi, ça. Moi, je crois qu'il en parle ici. Et à ce moment-là, donc, il faut que vous sachiez que le prêtre qui est à l'hôtel, il a ouvert. Alors ça, c'est pas dit. J'ai oublié de compléter. Il n'y a pas tout là-dedans. Normalement, dans l'ecténie instante, la ecténie intraïta, à la troisième demande, on prie pour l'évêque diocésain. Le métropolite, pas même ici, mais ça pourrait être un autre. Mais l'évêque diocésain. Et quand on prie pour l'évêque diocésain, on ouvre. Le prêtre à l'hôtel ouvre l'antimis, la première partie de l'antimis, la partie basse. Et qu'est-ce qu'il voit ici? Il voit la signature de l'évêque. Et là, il embrasse la signature de l'évêque. Pourquoi? Parce que il indique par là qu'il est dans la bénédiction. C'est comme s'il embrassait la main de l'évêque. Il embrasse sa signature, son nom. Et ce qu'il va faire là, il le fait dans l'obéissance à l'évêque. Mais l'autre partie de l'antimis reste fermée. Et on va l'ouvrir maintenant. Quand on va prier pour les catéchumènes, les tchèques, on ouvre complètement l'antimis à ce moment-là. Je crois qu'il le dit. Desfokun de Nachelashtim, chi suntu l'antimis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'idée d'une. Puisqu'on dit. Ils sont appelés, si vous voulez, à être unis à l'Église, au sacrifice de l'Église. Donc, tout est pour eux. Je pense qu'on ouvre l'antimis complètement parce que c'est la liturgie qui est offerte pour tous. Et ça, c'est assez beau, ça. Bon. Bon, et à ce moment-là, c'est vrai que le prêtre doit procéder à une espèce de nettoyage, si je peux dire, de l'antimis. Et il prend une petite éponge qui reste là, et avec cette éponge, il regarde s'il reste des miettes. Normalement, il ne doit pas y avoir de miettes du tout. Hein. Mais ça, comme Seigneur Joseph, il me fait peur. Quand il vient dans une église, il regarde, quand il ouvre l'antimis, il regarde s'il y a des miettes. Et s'il reste une miette, de la fois là, on se fait attraper. Hein. On se fait des très, très, très strict. Monseigneur Joseph est très, très strict pour la propreté à l'autel. L'autre jour, il était arrivé, un prêtre est venu avec un calice pour la liturgie qu'il avait apportée, et dans le calice qui avait été quand même nettoyé, rincé, il y avait une parcelle qui était restée collée à la paroi. Monseigneur Joseph, il a vu ça tout de suite, il n'était pas très content. Il a dit, faut pas nous faire ça. Donc c'est, pourquoi est-ce que ça, c'est pas un problème d'hygiène, uniquement? Un peu, il y a un problème de propreté, d'hygiène, c'est un peu normal quand même. Bon, mais c'est pas uniquement ça, c'est que la liturgie, pour nous les chrétiens orthodoxes, si vous voulez, c'est un absolu. Chaque liturgie est une, unique. Il n'y a pas d'autre. Donc il n'y a rien avant, rien après. C'est absolu. C'est pour ça qu'on consomme les dons à la fin de la liturgie. Donc il n'y a pas de miettes de la liturgie précédente, et il n'y a pas de rien. Donc, ça, c'est très très important. C'est le caractère absolu, en fait, de la liturgie. Ça, c'est... Et en plus de ça, il y a un aspect de propreté. Les bonnes églises, les voiles rouges qui servent pour la communion, ils sont toujours, ils sont propres chaque fois. On ne garde pas les voiles rouges de la fois précédente. La nappe a été changée chaque dimanche. Les cierges sont neufs. Tout est. Et même l'exemple de Mgr Joseph, je le donne toujours comme exemple. C'est pas parce qu'il m'écoute et que ça va lui faire plaisir, mais parce que je l'admire beaucoup. Mgr Joseph, il a toujours des vêtements nickel, comme s'il sortait du magasin. Magnifique. Alors, parce que même le sicarion, le l'aube, si quand tu l'as mise une fois, ben, elle est forcément un peu fripée. Ben, lui, son sicarion, même s'il a depuis 10 ans, il est nickel. Il a été repassé par l'émonial de Limoux auparavant. Mais je n'ai jamais vu Mgr Joseph avec une aube ou un sicarion qui est déjà servi. Jamais, 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 jamais. C'est comme si ça sortait du magasin. Donc il a une grande conscience de la beauté liturgique, la propreté liturgique et du caractère unique. Parce que c'est la même chose. L'aube qui a été repassée ce matin-là, c'est comme si elle était neuve, comme si elle n'avait jamais servi. qui nous vierge en quelque sorte. Voyez. C'est très important. Et à l'inverse, je sais que Monseigneur Marc me disait qu'une fois il a été dans une paroisse, il est entré dans le sanctuaire, c'était un bazar là-dedans. Il y avait des bouquins partout, la nappe n'avait pas été changée depuis 3 semaines, les cierges avaient coulé, enfin, il n'était pas content. Il a aussi, les évêques sont là pour ça, pour reprendre les prêtres gentiment, mais les reprendre quand même. Il doit pouvoir entrer dans un sanctuaire, ça doit être nickel un sanctuaire. Je vous le dis parce que tout le monde... Vous savez, moi je suis content de parler de ces choses-là parce que tout doit être connu de tous. Il n'y a pas de secret dans l'Église. Et donc les fidèles ont le droit de savoir qu'est-ce qui se passe dans le sanctuaire, quelle est la responsabilité du prêtre, qu'est-ce qu'on attend de lui, même si vous n'allez pas dans le sanctuaire tous les jours. Encore que ça peut arriver, vous savez, quand on fait la consécration d'une Église, tout le monde entre dans le sanctuaire, hommes et femmes. Donc vous êtes très surpris si vous entrez dans le sanctuaire. Alors c'est le jour de la consécration, donc en principe c'est propre, mais si c'est le bazar, des trucs qui traînent partout, vous allez être scandalisé. Parce que vous faites une image, a priori vous pensez que le sanctuaire c'est absolument le paradis, quoi. C'est, si vous voyez des choses qui traînent, des vieux chiffons, qu'est-ce que vous allez penser, oui. Et en particulier sur l'autel, il ne doit pas y avoir de livres. Ça, il ne le dit pas dans le Typicum, mais je l'ajoute. Sur l'autel, il doit y avoir, on a été parlé la dernière fois, il n'y a que l'Évangile, l'Antimise et la Croix. C'est tout. Et le calice qu'on va apporter après. Mais il n'y a pas de livre liturgique. Là, je suis désolé, la liturgie de Saint-Basile, de Saint-Jacques-de-Soie, n'est pas posée sur l'autel. Je suis désolé. Et même les lumières qu'il y a, elles ne sont pas sur l'autel. Elles sont un peu au fond, là-bas, sur un petit bord, qui est un peu au-delà de l'autel. Et je sais que Mgr Joseph, il respecte ça, parce qu'à Limours, et les livres ne sont jamais posés sur l'autel, ils sont posés sur un petit support en or massif. Enfin, ça a l'air de l'or massif, en tout cas. Donc, il n'y a pas de contact entre un livre liturgique et l'autel. Et si vous savez, je vais déjà expliquer pourquoi, c'est parce que c'est pour montrer qu'un livre liturgique n'a pas la même autorité canonique que l'Évangile. Et même la Bible, on ne la met pas. Le livre des psaumes, on ne le pose pas sur l'autel, je suis désolé. Alors, quand on parle comme ça, on dit oui, mais vous êtes maniaque, vous êtes. Oui, on peut nous reprocher d'être comme ça, mais. C'est ça l'esprit orthodoxe. C'est que ce qu'on fait a un sens. Ou alors, tu n'es pas orthodoxe, tu fais autre chose. Personne n'est obligé d'être orthodoxe non plus. Hein. C'est autre chose. Mais si on a choisi l'orthodoxie, si on a choisi de rester orthodoxe, c'est pour aussi garder cet esprit rigoureux, précis, soigné, parce qu'on aime Dieu. C'est par amour pour Dieu, c'est pas par formalisme, c'est pas par manie ou ritualisme. Non, c'est parce qu'on aime Dieu. Si on aime quelqu'un, on fait ce qu'il y a de mieux. On met ses plus beaux habits pour le recevoir. On ne s'élève pas en blue jean avec en basket, c'est pas possible. Enfin, si on aime Dieu, rendez compte. Si on aime le Christ. Il y a un aspect dans l'Évangile qui est très beau. Les apôtres étaient en train de pêcher, ils étaient en fait nus dans leur barque. Quand le Christ est arrivé, vite, vite, ils se sont habillés, parce que c'est le Christ qui est arrivé là, ils ont mis, je ne sais pas quoi, un maillot de bain, quelque chose. Mais on voit qu'ils avaient du respect pour lui, de ne pas se présenter devant lui de manière négligée. C'est intéressant. Dans l'Évangile, il y a beaucoup de choses. Bon, alors, on a encore un peu de temps, il faudrait avancer un peu quand même. Bon, alors, après ça, effectivement, le prêtre ou le diacre se retourne et il ferme. Et on dit, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il ferme les portes? On les a déjà fermées. Bon. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit avant? Ah non, je me trompe. La litanie triple, la litanie. Oui, on a dit qu'on avait fermé les portes. On a dû les rouvrir parce qu'il dit qu'on avait fermé les portes après la lecture de l'Évangile. Et à ce moment-là, il y a le mélime qui se fait donc à une qui de se fermer, ça peut, ça, oui. Bon. Mais donc, elles ont été rouvertes après, je ne sais pas quand.
Monsieur la verge.
Bon, et là, il veut qu'on les ferme. Mais je crois qu'il y a une, il manque un bout, là. Non, normalement, bah, dans l'usage quand même général dans nos paroisses, les portes, après la lecture de l'Évangile, les portes... Les portes restent ouvertes. Oui. On les fermera beaucoup, beaucoup plus tard. Et donc, du coup, effectivement, on se tourne, et les portes étant ouvertes, on se tourne vers les catéchumènes, s'ils sont là, les kémats, et on leur dit, alors, preotre sentoa, cheche un kide et vera, zekund, ectenia ulmatoare, que suntes kémats et jechis. Bon, et on ferme les portes à ce moment-là, après le renvoi des catéchumènes. Alors, voilà, on note, il y a une note de Dac, c'est un mythe qui était dans le chien de Pentou Catechumeni. Tiens, il emploie le mot Catechumeni ici, pas Kemat. Cum se obisnu yeste la multe biseris, maieles a orache, desfacere a stuntur de antimis, are loc in timpul ectenia intreite, așa fel că semnul cruci, cu buretele peste antimisul desfăcut, să se facă la exponismul. Oui, ça c'est pas très intéressant, cette remarque-là, oui. Oui, il n'y a que si. Oui, je comprends. Oui. Si on ne faisait pas, si on omettait l'ecténie pour les catéchumènes, donc, il suppose qu'on peut quand même les omettre, ce que je trouve dommage. Alors à ce moment-là, l'ouverture de l'antiménseur se ferait pendant l'ecténie triple. Voilà, oui. Bon, c'est pas extrêmement intéressant. Je regrette qu'il n'y ait pas de commentaire justement de ce passage-là. Quel est ce passage-là? On dit, tous ceux qui sont catéchumènes, qui se retirent. Alors, là, il passe un petit peu rapidement, et puis dans les églises, on le supprime. Mais non, il ne faut pas le supprimer. Parce qu'il y a ici un souvenir de l'église ancienne, et ce n'est pas un souvenir, c'est une réalité dans l'église actuelle, quand il y a des baptêmes d'adultes. C'est que les catéchumènes adultes, ils se retirent effectivement à ce moment-là, soit ils rentrent chez eux, soit ils vont devant la salle paroissiale avec leur parrain, avec un diacre s'il est disponible, après avec quelqu'un de la communauté, et là, ils travaillent. Alors, ils lisent l'évangile, ils posent des questions, ou on leur explique quelque chose de la liturgie, une catéchèse, on leur fait une catéchèse. Donc, c'est pas se retirer pour rentrer chez eux. Ils peuvent rentrer chez eux s'ils veulent. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas à rester après. Pourquoi est-ce qu'ils resteraient après? Pourquoi faire? Ils ne sont pas célébrants. Ils ne sont pas membres de l'Église. Ils ne sont pas membres du sacerdoce royal. Ils n'ont rien à faire là. Mais en plus, c'est malsain, c'est presque du sadisme. Parce qu'on les fait contempler quelque chose qu'ils ne peuvent pas prendre. Donc, c'est cruel. Donc, en fait, effectivement, le renvoi des catéchumènes, à ce moment-là, c'est du bon sens. De toute façon, les catéchumènes, ils ont à être là pour la première partie de la liturgie, qu'on appelle la liturgie des catéchumènes. La deuxième partie de la liturgie, ils n'ont pas à être là. C'est beaucoup trop long pour eux, vous voyez. Donc, moi, je fais partie des personnes qui plaident pour qu'on respecte ça, qu'on les renvoie pas méchamment, mais qu'on les congédie. Voilà, on leur donne congé pour qu'ils rentrent chez eux ou pour s'occuper d'eux sous forme de catéchèse. Je sais que moi, par ma propre expérience, j'ai eu beaucoup de baptêmes, quand même, depuis que je suis prêtre, c'est presque 40 ans, j'ai eu plusieurs fois des baptêmes d'adultes à faire, et on a toujours fait ça, on a toujours congédié les catéchumènes à cet endroit-là. Et ça a toujours été bien accepté, sauf une fois, je me rappelle, un garçon il avait une quarantaine d'années, il se préparait au baptême, et il souffrait beaucoup qu'on le congédie. Je lui dis, non, ce qui suit n'est pas pour vous. N'est pas pour vous. Et alors, du coup, le jour où tu es baptisé, où tu assistes à la deuxième partie de la liturgie, c'est extraordinaire. Ce n'est pas seulement assister, c'est participer activement. Si on considère que les fidèles sont tous des concélébrants, eh bien, pour être concélébrant, il faut être fidèle. Un catéchumène n'est pas un concélébrant. Il est un spectateur, il est un... Voilà, donc cette partie-là est très très intéressante. Bon, alors après ça, je n'ai rien de très très intéressant, c'est juste que vous connaissez. Il y a effectivement ces deux prières qu'on appelle les prières, on dit les litanies des fidèles. c'est pas qu'elles sont pour les fidèles, elles sont liées à la liturgie des fidèles. Ce sont les deux ecténies, petites ecténies, qui marquent qu'on est entré dans la liturgie des fidèles, qui est la deuxième partie. Mais en fait, le texte de ces deux prières est un texte qui ne concerne que les prêtres. C'est pour ça qu'on peut les dire à voix basse. Ce qui n'est pas commode. S'il y a un diacre, oui, et encore que l'ecténie est très courte, le prêtre n'a pas le temps de dire la prière. Mais il doit la dire. Je sais qu'une fois, j'étais pris par la vitesse, et du coup, j'ai dit l'ekphonèse, la litanie et l'ekphonèse, mais j'ai pas eu le temps de dire la prière. Monseigneur Séraphin Joande était là, et il est entré dans le tournée, il m'a dit, vous n'avez pas dit la prière. Ben, j'ai dit, ben non, je n'ai pas dit la prière. Il dit, il faut la dire. Bon. Mais vous savez, les évêques sont très attentifs. Même Monseigneur Joseph, qui est très bon, une fois j'avais fait une erreur, il est entré dans le sanctuaire, il m'a repris. Il a raison. Il n'a pas me laissé avec une erreur, il m'a repris. Hein. Il est entré, il était dans la nef à son siège épiscopal, il est venu. Oui. C'est très bien. Monseigneur Séraphin avait fait ça aussi. Ça arrive qu'on fasse des erreurs. Voilà. Donc, après ça, donc, quel est le moment très, très important? C'est... Là, oui. C'est ce qu'on appelle le Kérubicon, qui est le chant des chérubins. Ça, c'est un moment dans la liturgie qui est magnifique. Qui est magnifique parce que c'est un moment qui, indique la dimension angélique de la liturgie. Et ceci est très important. Vous savez, les orthodoxes, on n'est pas meilleur que les autres, si vous voulez. Ça, on le sait bien. On n'est pas meilleur que les autres. Mais, si vous voulez... On a au moins comme qualité devant Dieu d'avoir conservé des rites liturgiques anciens et qui ont un sens. Et en particulier d'avoir conservé cette théologie du monde angélique qui a, je ne veux pas être négatif, mais si vous voulez, qui n'existe pas, à ma connaissance, qui n'existe pas dans un office protestant, et qui, dans les offices catholiques depuis Vatican II, a été fortement réduit quand même. Il y a une allusion quand même aux anges, ce serait injuste de dire le contraire, mais si vous voulez, c'est très petit. Alors qu'ici, dans la liturgie byzantino-slave, palestinienne, c'est tout ce qu'on a dit déjà, la présence du monde angélique est immense. C'est-à-dire que théologiquement parlant, il n'y a pas de cas où Dieu se soit adressé au monde pour le sauver sans être escorté des anges, sans associer les anges à la manifestation de sa miséricorde. C'est pour ça que sur les icônes, très souvent, les anges sont présents. C'est comme icône derrière. Voilà, donc le Kérubicon, dont vous connaissez le chant, c'est nous qui dans le mystère représentons les chérubins. Et cette prière, alors elle est chantée par le cœur, et pas par les fidèles pour le coup, par le cœur, et elle est dite par les prêtres trois fois. Noe kare pe kerubim inkipuim shi, je ne sais plus en romain. Nous qui dans le mystère représentons les chérubins et chantons l'hymne trois fois sainte à la vie de la Trinité, déposons maintenant tous les soucis de ce monde pour accueillir le roi de gloire. C'est il primim. Grigia lumea, parce que c'est pas des bonhommes, c'est...
C'est l'épidum.
Toi, t'es grigia lumea, parce que c'est oh l'épidum, car per imperatul tuturo, c'est le primum, quelque chose comme ça, si je me trompe pas, le roumain, c'est pas ma matière forte, mais c'est intéressant de dire dans la langue roumaine, parce que quelquefois, il y a des nuances. Donc cette prière-là, elle est magnifique, cette prière-là, parce que elle prépare la grande entrée où justement on va accueillir le roi de gloire. Alors on retrouve ça un petit peu ces temps-ci dans la liturgie des dons présanctifiés. Il y a un très beau aussi Kérubicon, parce que là on reçoit le Christ, mais dans consacré vraiment, disons. C'est un très beau moment ça. Et ça, c'est accompagné par un encensement. Quand c'est l'évêque qui est là, il encense lui-même tout l'autel, tout le sanctuaire et l'encens, toute l'église, il va jusqu'au fond de l'église, jusqu'à la porte de l'église, et l'encens, il va bien des deux côtés, etc. Et si c'est le prêtre, c'est pareil, le premier prêtre, le protos, sort, il est précédé également par un flambeau, et il doit encenser jusqu'au bout et revenir. C'est parce que, si vous voulez, c'est parce que c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui reçoit le Christ, c'est pas uniquement l'astrana ou les gens qui sont devant. On encense tous ceux qui sont les hôtes, en quelque sorte, de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ici? Est-ce qu'il le donne? Alors, donc on dit, oui, c'est ça, le prêtre redit ce que je viens de dire à l'instant, et que le prêtre dit en discrètement la même chose que ce que le cœur chante. Voilà. Après ça, on ouvre les portes. Ah oui, Vera, c'est le rideau. Le rideau et les portes royales. Yakadenis, Akoparachiti de Darul, Dakanul et Akoparipenakum. Chifache, oui, ben non, mais ils sont déjà recouverts, voilà le problème. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Les dons, oui, sont déjà. Oui, c'est ça, le moment, là. Il met sur le. Ah oui, mais c'est la proscomédie. Oui, il va à la proscomédie, il termine la proscomédie si elle n'a pas été terminée auparavant. Oui. Normal, alors là, normalement, c'est vrai, il saute des passages. Hein. Normalement, la proscomédie, elle va être terminée au moins au moment de l'épître. Elle peut rester ouverte, mais si un évêque, c'est l'évêque qui termine, qui finit de préparer la proscomédie, qui met les noms, etc. Et si c'est un prêtre, il faut avoir terminé pour l'épître. C'est pour cette raison-là que les fidèles ne peuvent pas apporter des pomelniques encore après, parce que c'est terminé. Il faut que les fidèles d'abord viennent à l'heure, comme tout le monde, et ils apportent les pomelniques avant la grande entrée, mais bien sûr, avant la grande entrée. Mais oui, parce qu'il faut le dire, ça, justement. Oui, c'est ça. Donc, on est dans la grande entrée. Hein? Voilà, donc il fait l'encensement. Alors, ici, il y a une contradiction, effectivement, ce que je viens de dire, parce qu'on dit, il fait le kadili à mika, c'est-à-dire le petit encensement, en disant, et inchatichor, c'est-à-dire à voix basse, le psaume 50, d'accord? Et l'être père de. Bon. Mais. Là, effectivement, je veux dire que oui, je viens de dire le contraire. En réalité, dans la pratique, c'est peut-être la liturgie pontificale, alors. Dans la pratique, au moins de la liturgie pontificale, c'est pas Kadiria Mika, c'est Kadiria Mare Fat. C'est-à-dire qu'on encense tout le sanctuaire, on sort par la porte sainte, mais c'est la liturgie pontificale. C'est moi qui dois avoir tort, là, que la liturgie presbytérale, on ne doit pas le faire, on doit se contenter de la petite encensement et laisser pour l'évêque le grand encensement où il va jusqu'au fond et il revient. Oui. Effectivement. Mais c'est vrai qu'on a pris vraiment l'habitude de célébrer avec les évêques, avec Mgr Joseph en particulier, et quand il n'est pas là, on a tendance à faire comme il fait. Mais on n'est pas évêque. Le prêtre doit rester à sa place modeste. Donc, on va se rappeler de ça. Donc c'est le petit encensement dans le sanctuaire, en disant le psaume 50, ça est très bien, et c'est tout quand c'est un prêtre, voilà. En plus, bon, après ça, il embrasse la sainte table, l'antimis et la croix, ça c'est bon, il fait encore une métanie, il se retourne, ah oui, c'est très important, et venin in trus uchile in patatache, c'est plaque, c'est plaque une chose. Il entre là et il s'incline devant l'épitel. Ça c'est très très important, ça. Très important, parce que c'est, généralement il dit, je ne sais pas si c'est précisé là-dessus, si voilà, shelun de shirtale, c'est un moment où le prêtre demande pardon au fidèle. Il doit le faire à haute voix, mais ça c'est le gaz de pentruminera. C'est-à-dire, nettement, c'est très 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 important, ça. Il y a deux endroits où il le fait à cet endroit-là, et normalement avant de communier au corps et au sang du Christ. Et ça, c'est très très important, parce que ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire que le pouvoir de pardonner, il appartient à l'ensemble de l'Église. Ça, c'est important, ça, que quand le Christ dit « Ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux », il le dit aux apôtres, mais par les apôtres, il le dit à l'ensemble de l'Église. C'est vraiment important. Et ça veut dire aussi que le prêtre a, n'est pas supérieur aux autres, n'est pas une créature extraordinaire, etc. Mais il est aussi un homme comme les autres, c'est aussi un homme pécheur, et qu'il peut demander pardon, et que c'est le moment de demander pardon aux fidèles s'il les a offensés, bousqués, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. On doit demander pardon, on doit se demander pardon. Ça, c'est vraiment très très important. C'est très beau en plus, et il peut s'incliner, ça dépend des prêtres, s'incliner simplement, ou s'incliner plus profondément, même faire une méthanie, disons, en touchant la terre avec ses doigts. Voilà, méthanie quand même. Et si ce n'est pas le prêtre, c'est l'évêque. L'évêque aussi s'incline, il se lave les mains à cet endroit-là, l'évêque, si je me rappelle bien, et il s'incline devant les fidèles. Il ne faut pas avoir peur, quand on est évêque ou prêtre, on ne peut pas avoir peur de s'incliner dans le fidèle. C'est le peuple de Dieu, c'est le peuple royal de Dieu. C'est popor sun, comment est-ce que c'est nam, nam imperatesque, je crois, quelque comme ça. Le peuple royal de Dieu, dans les textes liturgiques, ça. Nam sun, nam. On dit ça, imperatesque, ça se dit ça. Royal, comment est-ce que vous dites ce royal? Oui, imperatesque. Voilà. Et je m'arrête là-dessus. Donc, ça, cette partie-là de la liturgie, elle est très très importante parce que on va avoir après ça, donc, qui est l'entrée solennelle, justement, du roi des rois. Voilà. Merci beaucoup de votre patience et de votre coopération. Et là, on va donc avoir nos gentils amis qui vont venir éteindre l'appareil. Et donc, on va pas se revoir avant un bout de temps. Donc, bonne célébration de Lazare, bonne célébration des Rameaux, bonne semaine sainte, bonne Pâques. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour dire Christ est ressuscité, Christos est en Dieu, Christos est en Esti, etc. Voilà.